Présente.
Claude Marie, absente, pouvoir à Odile Arnoux. Coulet Dominique, absente, pouvoir à Patrick Fleury. Corny Jean-Jacques, absent, pouvoir à Dolores Barouin. Dumont Laurence. Fagot Edwige, absente, pouvoir à Ferrou Djaraoui. Patrick Fleury. Fourdrin Stéphanie. Gagzinski Nicolas. Robon Lisiane. L'ami Christophe.
Oui.
Le Mercier Jean-Claude. Merlin Marie-France. Panier Francis, absent, pouvoir à Patrick Stephen. Rabé Philippe. Raguido Cécile. Raoui Ferrugia.
Présente.
Patrick Sauvage, absent. Patrick Stephen.
Présent.
Donc, les mêmes sont présents. Simplement, je vous annonce, donc le quorum est atteint, évidemment. Les pouvoirs reçus sont les mêmes et ont déjà été annoncés. La lecture de l'ordre du jour. Alors, après l'élection du secrétaire de séance... on garde la même secrétaire de séance, Evelyne Kerol, secrétaire de séance.
Oui.
Très bien. Donc Evelyne Kerol, secrétaire de séance. Donc premier point, approbation du procès verbal des délibérations du conseil municipal du 8 juin 2017. Ensuite, la décision 02-2017 du maire, les décisions de droit de préemption urbain. Et ensuite, on commencera avec le gros morceau, le PPRI pour la rivière Oise, section Compiègne, Pont-Sainte-Maxence. Après, on parlera du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de l'Oise-Aronde. On parlera ensuite, on reparlera d'acquisition de terrain. Ensuite, on passera au tableau des effectifs, régime indemnitaire, location de salle, une demande d'annulation, titre irrécouvrable, créance admise en non-valeur, titre irrécouvrable, créance éteinte. Ensuite, concession GRDF. Donc, c'est une information. Le moins qu'on puisse dire, c'est que sur le réseau GRDF, il ne s'est pas passé beaucoup de choses. Donc, je propose de reporter ce point-là à la prochaine réunion. Ensuite, soutien à Paris 2017.
2024.
Oui, 2017, c'est un peu court. 2024. Et des questions diverses. Donc, premier point de l'ordre du jour, approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil municipal du 8 juin 2017.
J'aurais une question à poser concernant le compte-rendu à la partie taxe locale sur la publicité extérieure.
Oui.
Lorsqu'on a fait le Conseil municipal début du mois,
oui.
Nous n'avons pas eu ceux qui ont eu les dossiers en papier, on n'a pas eu... Donc c'est une photo représentant le champ d'Olan.
La ZAC du champ d'Olan, oui.
Et là, je m'en retrouve avec la photo du champ d'Olan et je ne comprends pas le rapport avec la zone de publicité extérieure.
Ben si, parce que la zone de champ d'Olan, c'est censé devenir une ZAC, en voilà, fait. Et c'est sur ce terrain-là qu'on a transféré la taxe à l'agglomération de la région de Compiègne. Autrement dit, pour l'instant, il n'y a rien.
Oui, mais quand on parle de la publicité extérieure, c'est sur des panneaux, normalement. Et là-bas, il n'y a pas de panneaux sur le terrain.
Non, mais on est d'accord. Donc, c'est...
C'est le jour où elle sera aménagée.
On prévoit de mettre des panneaux pour dire que c'est une zone d'activité économique. Donc, on va payer...
Non, c'est pas ça.
Ah, si.
Non, c'est-à-dire que cette zone-là, il n'y a rien aujourd'hui. Si dans quelques années, il y a des entreprises qui s'installent et qui mettent des panneaux, ils paieront une taxe sur leurs panneaux.
À l'agglomération de la région de Compiègne.
À l'agglomération de la région de Compiègne. C'est pas... Il n'y a rien d'autre. Aujourd'hui, il n'y a rien à payer.
Il n'y a rien à payer là-dessus.
Ah non.
C'est pas nous qui payons.
Ça deviendra une zone.
Peut-être. Aujourd'hui, dans les transferts qui ont été faits au moment de la fusion, cet endroit-là était destiné à devenir une zone d'activité économique, une ZAE. Donc tout ça, c'est potentiel. Elle ne le deviendra peut-être jamais. Elle le deviendra peut-être. En tout état de cause, si elle le devient un jour, la taxe sur la publicité extérieure qui sera mise sur place par des entreprises, voire des commerces, j'en sais rien, à ce moment-là, cette taxe sera payée à l'agglomération de la région de Compiègne et non pas à la ville de Verberie.
Voilà, parce que c'est une zone d'intérêt communautaire.
Et pourquoi on a mis la carte dedans? C'est pour bien marquer le périmètre de la ZAC du champ d'Olan. Voilà.
C'est ce que j'en ai déduit, parce que, mais bon... Je l'ai découvert parce que quand j'ai eu le compte-rendu. Alors, on ne l'a pas eu, nous, quand on a eu le dossier.
Non, parce que bon, le périmètre de la ZAC est connu, on l'a précisé après. Enfin, on sait normalement, ici, on sait quand même où ça se trouve. Je veux dire, près de Saint-Sauveur.
Oui, parce que c'était une zone qui était prévue
près d'un... Non, mais
ce que je veux dire, c'est que vous, sur informatique, vous l'avez. Que nous, oui. Sur papier, on ne l'a pas. Alors, ça serait quand même bien que vous ayez les mêmes documents.
Et là, c'est le compte-rendu.
Oui, mais quand on a reçu le...
La convocation.
Oui, la convocation, ça n'y était pas.
Tout simplement parce que le périmètre, au mètre près, où n'était pas encore... voilà, on a récupéré le document après. Ceci dit, lors du précédent conseil municipal, au moment où on a évoqué ça, on a bien parlé de la ZAC du Champ d'Oulan. Et quand vous ne savez pas où se trouve quelque chose, merci de poser la question.
C'est bien qu'on ait la voilà. Parce que moi, on la situe.
Bien. OK. Autre chose ? Très bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Procès verbal approuvé à l'unanimité. Ensuite, donc, décision 02 du maire. OK, merci. Décision 02-2017. Donc, Monsieur Michel Arnoux, maire de Verberie, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du Conseil municipal du 25 avril 2014 relative aux délégations accordées aux maires, décide de signer ce jour le marché de services relatifs à l'entretien, le renouvellement et l'investissement de l'éclairage public avec l'entreprise Engie Ineo 6 avenue Henri Adnaud, Compiègne, pour un montant maximum annuel de 50 000 euros hors taxe. 60 000 euros TTC, passé selon la procédure adaptée. Bon, dans cette, les commentaires qu'on peut faire sur ce marché qui a été signé, le premier commentaire, c'est que c'est la même société qui poursuit. Néanmoins, on a fait l'appel d'offres. Ensuite, il s'agit bien d'un montant maximum annuel. Parce qu'en fait, il y a des possibilités de procéder par, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais par bon de commande sur certaines actions. Sur les actions qu'on entreprend d'habitude, on a gagné, d'habitude c'est autour de 20 000 euros. Là, on est passé, en fait, c'est autour de 16 000 euros, pardon. Là, on est passé à 16 000 euros, on est resté au même niveau, mais dedans, on a inclus la pose de tout ce qui est illumination de Noël, qui nous revenait à 4 500 euros. Autrement dit, on a gagné 20% sur le marché, sans compter que la prestation d'entretien est plus complète, puisque sur les 10 passages annuels qui sont prévus, jusqu'à présent, on avait 10 passages annuels en diurne, c'est-à-dire la journée, ce qui avec... des personnes qui se demandent pourquoi les lampes sont allumées la journée. Mais là, on a 5 passages en diurne, 5 passages en nocturne. Passage en nocturne, outre l'avantage de ne pas allumer les lumières dans la journée, ça permet aussi de détecter des anomalies qu'on ne détecte pas le jour, parce que le jour, on ne laisse pas chauffer les lampes. D'accord ? Donc, ça permet un service de meilleure qualité. Bon, effectivement, nocturne, si on le prend de manière intrinsèque, ça coûte évidemment plus cher qu'un passage diurne, parce que ceux qui travaillent sont évidemment pas payés le même prix. Voilà. Toujours est-il que là, on a gagné 20% et on a un marché plus complet. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette affaire-là ? Donc, ils ont fait leur premier passage, en fait, déjà, hein, la semaine dernière, en diurne. Voilà. On a eu quand même une petite interruption entre les deux, simplement parce que il y avait la procédure de consultation. On a dû la relancer parce que la première ne nous convenait pas. Et ensuite, dedans, ce qu'il n'y avait pas non plus avant dans le précédent marché, on a maintenant un bordereau de prix unitaire pour tout un tas de poteaux, etc., type d'éclairage, ce qui nous permet d'avoir, on n'est pas obligé d'acheter, mais au moins on sait d'avance, on a un prix de référence et on sait au moins à quel prix on peut l'acheter. Si on le trouve moins cher ailleurs, ben on l'achètera ailleurs. Mais voilà, on a au moins cette référence-là qui existe, ce qui va nous permettre d'ailleurs de faire certains remplacements dans la ville pour des choses qui ne fonctionnent pas en ce moment.
Une question, Michel, pour ceux qui sont dégradés, ils vont être changés ou pas ?
Alors, c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. En fait, avant, on n'avait pas de bureau des prix, de bordereau des prix unitaires. Autrement dit, maintenant, on a un catalogue avec des prix. Et on attendait d'avoir ce catalogue avec des prix, parce qu'ils sont quand même beaucoup plus avantageux, pour procéder à un certain nombre de remplacements. Voilà. Et donc, il fallait qu'on attende la signature du contrat, effectivement. Donc là, c'est chose faite. Question ? Bon. Donc maintenant, la décision de droit de préemption urbain. Donc nous n'avons pas exercé notre droit de préemption. Et donc les opportunités que nous avions, Monsieur Soares Louis, 6 rue de la Gare, Monsieur et Madame Pascarella Pierre, 4 impasse des Hirondelles, Monsieur et Madame Diff Olivier, 1 cavé du Lébouilly, Monsieur Boulmasrab Djabali, 4 rue du Parc. Monsieur Madame Souti Daniel, 36 rue Saint-Pierre. Monsieur Madame Mélin Yvette, 8 rue Jean Jaurès. Monsieur Paulin Bruno, 16 rue Joseph Pinjot. Monsieur Madame Desmoulins Fabrice, 41 rue Saint-Nicolas. La SCI Domino, la main fermée. Monsieur Deveau Sylvain, Leroy Valéry, 21 avenue René Firmin. Monsieur et Madame Leroy Jacquie, 18 terre rue Saint-Nicolas. Monsieur et Madame Deveau Christian, 20 rue Joseph Pinjot. Monsieur Glineur Kevin. Et Moissé Laura, 34 rue de
Paris.
Pardon, j'avais un peu de mal. Voilà pour la lecture des droits de préemption urbain. Ensuite, premier point de l'ordre du jour, donc le PPRI pour la Rivière-Oise, section Compiègne-Pont-Sainte-Maxence. J'avais invité un certain nombre d'entre vous à consulter le document. Je ne sais pas si certains l'ont fait. Il faisait plus de 1000 pages, le document complet. Et on nous demande un avis pour le 21 juillet. Donc, compte tenu des échéances, on va donc rendre notre avis aujourd'hui. C'est PPRI, est-ce que plan de prévention du risque des risques d'inondation ? Est-ce que tout le monde est au fait de cette affaire-là ? Est-ce que quelqu'un a besoin d'explications sur ce que c'est ? Non ? C'est clair ? Donc ça s'impose dans les zones inondables. Et dans les zones inondables, eh bien, ça se soumet à des contraintes, des interdictions ou des préconisations, voilà, pour construire dans les permis de construire. C'est une servitude. C'est signé par le préfet. C'est une servitude. Ça s'impose au plan local d'urbanisme. Voilà. Comme c'est imposé jusqu'à nous, celui qui, jusqu'à présent, avait été fait, c'est dans les années... Monsieur Floury, il était fait quand ? Dans quelles années ? Celui qui s'impose actuellement ? 2008, par là ? Même avant, peut-être. Hein. C'est après la crue de 2001.
Oui, c'est après la crue de 2001. C'est assez rapide. Hein.
Voilà. Donc, un premier PPRI a été fait, et puis là, il s'agissait, en fait, de le renouveler. Donc, dans le cadre de ce PPRI, ben, je vais vous proposer... bon, je ne vous montre pas le document de 1000 pages. Je pense que ce ne serait pas utile. Je vous propose déjà la carte que vous voyez affichée là, du PPRI. Jusqu'à présent, on avait un règlement de PPRI qui faisait 9 pages avec 3 zonages possibles. Un zonage transparent, c'est-à-dire on n'a rien à dire, et des zonages colorés. Il y avait un zonage bleu, construction avec contrainte, et un zonage rouge, interdiction de construire. Voilà, c'est un résumé, mais ça dit assez bien les choses. Là, on n'a plus du tout affaire au même type de document. Le règlement fait 272 pages. C'est dire que ça ne va pas être simple s'il est approuvé en l'état. La carte, comme vous le voyez ici, elle ne comporte pas trois types de zonage, mais elle comporte 9 ou 10, je ne sais plus.
10.
10 zones. Alors vous avez, je vais essayer de les citer dans l'ordre, hein. Vous avez, c'est écrit là-bas, je vais aller voir là-bas. Donc vous avez des zones qui se trouvent comme, vous avez d'abord la zone, des zones qui se trouvent dans ce qui est zone urbaine, donc dans les zones qui sont a priori susceptibles de voir des constructions. Donc vous avez, alors les cartes, les couleurs se représentent peut-être pas très bien, l'aléa faible. Donc voilà, avec vous avez tout ça, tout ce qui est bleu clair comme ça, c'est aléa faible en zone urbaine. Donc construction avec des contraintes déjà. Aléa moyen, c'est le bleu qui est ici, des contraintes qui sont encore plus fortes. Et ensuite l'aléa fort, rouge, où vous avez quasiment le droit de rien construire, que vous trouvez ici. Ensuite, dans les zones d'extension urbaine, alors vous avez, on en voit ici, de l'aléa faible, de l'aléa moyen, on en voit ici du marron là, et de l'aléa fort qui est rouge de la même façon. Donc on est à 6 types de zones. Ensuite, vous avez pour réduire l'aléa des zones d'expansion de crue. Alors zone d'expansion de crue, vous avez le droit de faire assez peu de choses dans la zone d'expansion de crue. Même pratiquement rien. Aujourd'hui, tel qu'est rédigé. Vous avez des zones d'expansion de crue à fort enjeu de préservation. C'est celle-ci. C'est des zones d'expansion de crue, mais où les contraintes sont encore plus élevées. Alors, faut que je signe un papier. Donc on en était à ces zones d'expansion de crue à fort enjeu de préservation. Alors, les forts enjeux de préservation, c'est lié à la biodiversité. Autant dire que, pour ma part, pour la part de beaucoup de monde, déjà ça suscite la plus grande incompréhension, puisque on n'a jamais pu avoir, en fait, d'abord la méthode qui permet de dire qu'on a une zone d'expansion normale. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une zone d'expansion de crue normale à une zone d'expansion de crue à enjeu fort de préservation? On nous a dit qu'il y avait des croisements avec des éléments de biodiversité, etc. Bon. Mais on leur a demandé une définition précise. Ils nous avaient dit qu'ils nous l'enverraient. Je l'ai redemandé plusieurs fois. Jamais on ne l'a eu. Ensuite, on verra dans la vie, j'en parle dans la vie, très clairement, on demande le retrait de ce type de zone. Parce que de toute façon, ce n'est pas bon d'avoir un document, indépendamment de ce qu'on pense de la biodiversité, de mon point de vue, ce n'est pas bon d'avoir un document qui mélange les genres. On a un document qui traite de l'inondation, et après, on a des documents qui traitent de la biodiversité. Mélanger les deux, ça va conduire à des problèmes, parce que forcément, de toute façon, pour ne prendre qu'un exemple, un jour, les députés décideront de faire évoluer le règlement sur la biodiversité, et nous, on en sera toujours là, avec, en plus, là c'est une servitude, hein. Là vous ne pouvez pas y échapper. Et vous vous retrouvez en fait plus contraint que la loi, les lois sur la biodiversité. Parce que les compensations, etc., là c'est même plus possible. Hein, ça vous impose sur cette zone-là, vous avez des droits extrêmement limités. Autre type de zone. Alors vous avez les zones de stockage. Oui, c'est pas bon. Zone de stockage. Donc les zones de stockage, c'est tout l'équipement qui a été mis en place par l'entité OASEN. Pardon, n'importe quoi. Par l'entente OASEN. Donc ils ont fait une zone particulière avec des prescriptions particulières. Voilà. Qui, les prescriptions, je le résume en un mot, c'est évidemment un peu plus complexe que ça, mais avant de faire quelque chose, il faut avoir l'autorisation de l'entente OASEN. Voilà. Du gestionnaire des zones de stockage.
Bon, ce qui semble pas délirant pour le coup. Mais ça n'en dit pas beaucoup plus que ça. Par contre, effectivement, les zones d'expansion de crues, ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez qu'on en a un peu partout. Nous, encore, ça va. Je sais que dans Compiègne, ou Marnier et Compiègne, vous vous retrouvez avec des zones d'expansion de crues en plein centre-ville. Bon, Compagne qui pourra. En tout cas, voilà. C'est vrai. Aujourd'hui, ça fait un tollé, ça peut faire. C'est clair, ça fait un tollé partout. Maintenant, vous voyez le créneau dans lequel on nous demande de prendre notre avis sur un document qui est très très complexe. Et tout ça sera suivi d'une enquête publique. Il impose aussi des mesures, on y reviendra dans l'avis, particulières. Notamment, il oblige à faire des diagnostics de vulnérabilité aux inondations. Dans le SCOT, dans les PLU. Et il oblige aussi, même sur l'existant, les gens, les propriétaires sur l'existant, à faire ce même type de diagnostic. Et après, une fois qu'ils ont fait le diagnostic, il y a évidemment une conclusion avec des travaux à effectuer, et ils ont quelques années pour effectuer les travaux. Pas beaucoup. Sachant que les travaux ne doivent pas dépasser 10% de la valeur vénale du bien. Mais 10% de la valeur vénale du bien, d'abord, c'est bien de 100 000. Si vous avez une maison de 100 000 euros, ben on peut vous imposer des travaux de 10 000 euros en 3 ans. Il est possible que vous arriviez à avoir des subventions. On vous dit aujourd'hui que vous aurez plein de subventions. Bon, on voit que l'État a de moins en moins d'argent quand même. Hein. Donc, méfiance. Et puis, celui, je pense, à Francem, par exemple, qui est là, eux, ce n'est pas 100 000 euros la valeur vénale du bien. Donc, 10% de la valeur vénale du bien, je vous laisse imaginer. Ce que ça pourrait entraîner. Voilà aujourd'hui ce qui est en place. Alors il y a ces zones-là dont je n'ai pas parlé parce que nous on n'en a pas. C'est des zones où il y a beaucoup d'eau, mais ils ont voulu prendre des mesures particulières pour quand même autoriser une certaine industrialisation. Alors il y en a très peu, il y en a une sur Longueuil, il y en a une sur le site de Continental, il y en a très très peu. On a déposé des fiches. Pour ça. Fiches qui ont été, c'est issu d'un long processus, ça nous a valu un temps de réunion, un nombre de réunions incalculable. Nous, on avait déposé 3 fiches. On avait déposé une fiche sur la main fermée, on avait déposé une fiche sur la zone d'hébergement de loisirs qui était ici, et on avait déposé une fiche sur, attendez, je cherche là, je vais pas chercher, voilà, sur toute la partie qui est ici, qui est la partie de la gare. Voilà, on avait déposé 3 fiches.
Pourquoi c'est en blanc ?
Quand c'est en blanc, c'est que.
C'est constructible. Il n'y a pas de prescription.
Il n'y a pas de.
Y a pas
tout
de
ça, j'ai oublié de vous le dire, a été. Alors avant, il y avait une crue qui était dite centenale, qui était en gros la crue de 95 plus 30 cm. Les calculs ont été revus avec d'autres modélisations. Et aujourd'hui, ça se traduit par des hausses importantes par rapport à ce qui existait à l'époque. Il y a des zones bien plus grandes qui sont devenues inondables. Voilà. Voilà ce que je peux vous en dire. Est-ce qu'à ce niveau-là, alors je ne prétends pas faire l'exhaustivité du règlement, mais à ce niveau-là, est-ce que vous avez déjà des questions ?
Oui, parce que sur les zones de stockage, vous avez une piscine après. De pouvoir sortir du bâtiment puisqu'ils arrivent, la zone de stockage arrive le long de la voie de la 932 hein, totalement en France.
Hein. Pratiquement, non, enfin il y a un petit truc hein, là, mais elle est là, 932, elle est là. Alors je suis désolé, je ne vois pas bien.
Sur la partie vers de l'autre côté, mais par l'entrée où il y a aujourd'hui boutique, hein, je veux dire.
Ouais. Bon,
ouais. Toute la partie
ici
de droite, mais, et l'autre partie, c'est, ça devient totalement inconstructible puisque c'est
ici
dans les zones de stockage.
Ici
ouais.
Alors, c'est ce que je dis tout à l'heure. On ne vous dit pas que c'est inconstructible. Je ne dis pas que vous allez faire de l'habitation en dur. Ça, c'est, il ne faut pas y songer. Par contre, sur le projet HLR, on vous dit sur les zones de stockage, alors je parle bien dans les zones de stockage, je ne parle pas ici dans la zone d'expansion de crue, qu'en gros, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir l'autorisation du gestionnaire, ça va revenir, je pense, c'est d'avoir l'autorisation du gestionnaire de la zone de stockage, autrement dit l'enfant toisé. C'est eux qui décident. C'est eux qui donnent, il faut avoir leur aval. Ceci dit, aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit très différent. Si vous voulez faire, mais ça se passe pas forcément mal. La preuve, le téléski, tout ça a été monté, ça a été monté en accord avec l'entente voisine. Ça se passe pas forcément mal.
Oui, mais c'est une autre cartographie.
Oui, mais l'étang qui est ici est quand même en zone inondable, de toute façon, aujourd'hui. Au bord, pas sur les bords, pas si. Aujourd'hui, là, de toute façon.
Oui, mais il y avait des différenciations bien, le chemin n'était pas inondable.
Bah, il y a là le chemin.
Oui, mais il y avait vraiment une séparation avec des étangs et de chaque côté des étangs. Non, là, on ne retrouve plus rien, on ne retrouve qu'une zone de stockage.
C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est qu'on a pris en compte une crue centenale qui est bien plus haute que ne l'était la crue précédente. Donc on se retrouve avec des zones qui n'étaient pas inondables et qui aujourd'hui sont déclarées par ce doute. Enfin, là, on est sur le projet. Hein, qui, si jamais il était validé, voilà, tout ça est inondable.
Pourtant, les zones ouvertes sont totalement.
Aujourd'hui, on ne peut pas construire grand-chose. Honnêtement, vous allez voir tout à l'heure dans les vies, mais déjà, vous imaginez un règlement de 272 pages. Déjà, un règlement de 20 pages, ce n'est pas simple à appliquer. Parce que vous tombez surtout toujours sur des cas, vous êtes à la limite, vous demandez exactement ce que la personne a voulu dire, etc. Enfin bref, là, 272 pages dans cet état-là, je ne sais même pas où ils vont terminer les gens. C'est une histoire de fou là pour les instructeurs. Très clairement, et c'est une source évidemment de contentieux à venir. Des métiers, ça va être rentable. Hein, ça va être, eux, ils vont faire du développement.
Mais tous ces gens qui ont des propriétés dans ces zones-là, s'ils veulent les revendre, avec les problèmes de zone inondable.
Alors, je ne dirais pas qu'elles ne valent plus rien. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a un bien qui va, si on le prend à un instant T, il est clair qu'il va subir quelque part une dévalorisation. C'est incontestable. Maintenant, dans le temps, là c'est beaucoup plus discutable, puisque il y a d'autres paramètres qui jouent. On est près de Paris, le Grand Récif va se développer. Donc et après, il faut isoler les facteurs. Mais oui, ça a de toute façon un impact. Maintenant, il n'est pas non plus illégitime pour l'État, sur des zones inondables et qui, où il y a un risque important, pour la vie humaine par exemple, là on n'est pas forcément dans ce cas-là, de prendre des mesures. Il y a aussi le fait que si la personne est en zone inondable et si elle est inondée tous les 5 ou 10 ans, de toute façon, que vous soyez en zone contrainte ou pas, à moins de rouler celui qui vous achète, la personne, elle saura que voilà, il y a des crues tout le temps, et puis que le bien, quand il y a des crues, le bien, il en prend une claque, il faut refaire des choses, c'est des coûts importants, avec des assureurs qui sont de moins en moins en clin à rembourser.
Il y a déjà des moyens ça se voit à tour de bras.
Oui, on est, justement, c'est toute la différence. Là-bas, ils ont eu des crues extrêmement rapides. Hein, c'est la conjonction de plusieurs phénomènes. Ils étaient sur le littoral, qui sont arrivés en même temps, qui a mené effectivement à des drames, puisqu'il y a eu perte de vie humaine. Là, on est sur l'Oise, on est en gros avec des crues qui mettent 3 à 5 jours à monter. Alors après, on vous dit, oui, mais dans la crue de 95, il y a eu quelques personnes qui sont décédées. Oui, il y a peut-être des personnes qui ont fait une crise cardiaque, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais vous savez, une personne âgée qui se retrouve le matin avec de l'eau jusque-là, vous pouvez avoir, vous êtes à l'abri de rien. Mais ça n'a quand même rien à voir avec la zone dont tu parlais, où en gros les gens se sont retrouvés collés au plafond. Voilà, je vous propose de lire, je vous l'avais envoyé, mais je vous propose de lire maintenant l'avis tel que je l'ai rédigé aujourd'hui. Oui.
On va en parler. Dans les... Je vous propose d'aborder la vie. Et puis, on... quand même, je vous avais envoyé un premier jet de la vie. Encore une fois, ça a été quelques heures de travail. Hein. Un premier jet de cet avis. Évidemment, j'ai passé un certain temps à faire le deuxième jet, donc la version 2. Alors, on va la lire complètement. On va avancer en allant. Se protéger des inondations par des mesures de protection et de sauvegarde est une nécessité. Il n'est pas question de remettre en cause l'existence d'un plan de prévention du risque d'inondation, ni le besoin d'une certaine évolution par rapport à la version actuellement en vigueur. Il faut toutefois rechercher le bon équilibre en tenant compte du risque réel, brûlant de l'Oise, et de l'impact des mesures prises sur la dévalorisation des biens, le développement de l'économie, donc de l'emploi, et de l'habitat dans la vallée de l'Oise. Le projet propose des mesures manifestement disproportionnées, dont certaines n'ont d'ailleurs pas de rapport avec la protection contre les inondations. En outre, ces multiples interdictions et contraintes aboutissent à un quasi-gel du territoire de la commune, ce qui est parfaitement injustifié. Par ailleurs, le calcul de l'aléa de hauteur d'eau. Donc, l'aléa de hauteur d'eau, c'est la hauteur d'eau que vous avez sur votre terrain en cas de crue centennale. Et évidemment, il joue pour beaucoup dans l'attribution dans les différentes zones. Donc, par ailleurs, le calcul de l'aléa de hauteur d'eau pour la crue centennale pose en lui-même problème. Le règlement proposé s'étale sur 272 pages et comporte 10 zonages différents, alors que la version actuellement en service comporte 9 pages et 3 zonages différents. Il s'agit d'un document trop épais, peu intelligible et pas abouti, dont la complexité, s'il était validé, conduirait à de nombreux contentieux. Tu peux avancer ? En conséquence, le conseil municipal... Nos observations détaillées sur le rapport de présentation, les projets de règlement et de zonage se trouvent en annexe. En conséquence, le conseil municipal de Verberie émet un avis particulièrement défavorable à ce projet de plan de prévention des risques d'inondation, section Compiègne pour Saint-Maxence. Il convient de le reprendre en adoptant un calendrier qui permette de prendre en compte les résultats des études MAGEO, mises au gabarit européen de l'Oise et CSNE, Canal Seine Nord Europe, afin d'aboutir à un document simple et réaliste. Alors oui, j'ai oublié de vous en parler. Avec le canal Seine-Nord, bon, selon toute probabilité, aujourd'hui, va se faire, il y a des financements. S'il se fait, MAGEO se fera, ça va se traduire quand même au niveau des différentes de la vallée de l'Oise, variable en fonction des endroits, sur une baisse du niveau. Ici, à Verberie, dans le niveau de l'avant-projet, c'était de l'ordre de 22 cm. Voilà. Aujourd'hui, justement, ils ne veulent pas tenir compte, alors que les résultats vont arriver à court terme, ils ne veulent pas tenir compte de cette affaire-là. Ils disent, de toute façon, voilà, le canal Seine-Nord, il n'est pas fait, même si on a les études, ce n'est pas non plus illogique comme raisonnement, même si on a les études, de toute façon, ce ne sera valable qu'au moment où ces infrastructures seront en service. D'accord ? Donc jusque-là, en gros, on pourrait mourir d'inondation. Bon, sauf qu'on est quand même dans une zone de crue-lente et qu'il n'y a pas le feu à la maison. Donc c'est pour ça que alors, je vous propose d'aborder l'annexe point par point. Alors j'ai pas fait de la grande littérature, hein, j'ai fait des points successifs. Premier point, l'analyse de ce document particulièrement complexe et épais, plus de 1000 pages, est imposée dans une période particulièrement peu propice, amputée par la période estivale, 3 semaines du mois de juillet. En outre, l'organisation des élections et la mise en œuvre de diverses réformes induites par la loi NOTRe ont largement occupé le reste de la période. La commune de Verberie s'est ainsi trouvée dans une situation délicate, de nature à produire des observations et un avis incomplet. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Ce projet a été conduit avec la volonté d'aboutir coûte que coûte avant fin 2017, alors que les projets CSNE et MAGEO, dont les résultats des études qui vont être conduits à court terme, risquent de modifier l'aléa de hauteur d'eau de manière significative, notamment à Verberie. Il est donc plus que raisonnable de revoir le calendrier de ce PPR. Troisième point, ce projet a effectivement fait l'objet de nombreuses réunions de concertation. Elles ont pris beaucoup de temps, par contre la qualité n'a pas été au rendez-vous, tant par le niveau d'impréparation de certaines d'entre elles, que par l'absence de compte-rendu retraçant les discussions. Ceci laissait présager qu'elles discussions ne seraient pas réellement prises en compte, ce qui s'est avéré exact. Quatrième point, après avoir conduit un atelier national sur la base de la résilience, donc la résilience, L'idée de la résilience, c'est que on construit pour que même quand on est inondé, finalement, en gros, ça continue à fonctionner partout. Et une fois que l'inondation est partie, on retrouve très vite la normale. C'est pas anodin. Ils se sont effectivement heurtés à un problème, c'est celui des réseaux, et en particulier des réseaux électriques. Puisque deux postes sources, pas le nôtre, mais deux postes sources, lors de la crue centenale, sont les pieds dans l'eau. Et un poste source qui a les pieds dans l'eau, on coupe. Donc toute la région, il n'y a plus d'électricité. Même dans les zones qui ne sont pas inondables. Donc en gros, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'à Verberie, même si tout le monde n'est pas inondable, en cas de crue centenale, il n'y a plus d'électricité à Verberie. Il faut mettre en place des groupes, etc., mais il n'y a plus d'électricité à Verberie. Bien, on continue. Alors, j'en étais, je reprends. Après avoir conduit un atelier national sur la base de la résilience, et donc finalement de l'aptitude à vivre en zone inondable, l'État a fait une marche arrière brutale en faisant de l'interdiction la philosophie majeure de ce projet. La résilience semblait pourtant une solution adaptée pour faire face à la double exigence, construire en limitant la consommation de terres agricoles et protéger les habitants et les biens dans un contexte de crue lente. Cet aspect crue lente n'est pas pris en compte dans la réglementation. Cinquième point. L'absence d'études d'impact du projet sur l'activité économique et la politique de l'habitat n'a pas permis de prendre le recul nécessaire face aux exigences multiples du monde actuel. Sixième point, là ça va être un peu plus technique. Le calcul de l'aléa de hauteur d'eau pour la crue centenale pose problème. Nous ne nous exprimerons pas sur l'étude hydraulique car nous sommes dans la capacité d'estimer sa pertinence. Alors l'étude hydraulique, en gros, c'est le flux d'eau que vous avez à traiter en entrée. Donc ça c'est déterminé par des calculs savants qui prennent en compte une pluie centenale plus, enfin voilà, tout va mal, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est l'apocalypse et tout ça arrive en même temps. En gros, c'est les hypothèses qu'ils ont prises. Ils ont pris des hypothèses largement maximalistes. Hein. Mais là, je ne me sens pas... Il y a des gens plus compétents que moi qui vont s'en occuper. Je ne me sens pas partir sur ce sujet-là. Par contre, après, pour continuer là-dessus, lorsque vous avez le flux en entrée, comment vous savez quelle est la hauteur d'eau? Il faut avoir ce qu'on appelle un modèle numérique de terrain. C'est-à-dire, on vous donne des altitudes partout du terrain. Et là... Le modèle numérique de terrain, manifestement, on nous l'a vendu étant précis à 15 cm près en hauteur. Manifestement, on a apporté la preuve que ce n'était pas le cas, au moins en certains endroits. C'est ce que j'écris après. Comprenez que si ce truc-là n'est pas bon, bah les hauteurs d'eau, elles ne sont pas bonnes derrière. Donc je lis ce que j'ai écrit. Donc nous sommes dans la capacité d'estimer sa pertinence. Par contre, le modèle numérique de terrain utilisé n'a fait l'objet d'aucun contrôle qualité, ce qui n'est absolument pas raisonnable compte tenu des conséquences engendrées par l'aléa sur le développement des territoires et la valeur vénale des biens impactés. Ainsi, sur la commune, le contexte particulier du secteur de la main fermée nous a permis de détecter des imprécisions manifestes qui ne pouvaient être contestées. Tu peux remonter un peu, Nicolas ? Attends, là je suis perdu. Ah, tu peux remonter. Non, on va remonter. Allez dans l'autre sens. Un peu. Non, attends, attends.
Non.
Bah doucement. Tu me le. Que je vois. Voilà, très bien. Qui ne pouvait être contesté. Ainsi, vous voyez ici, ça c'était la première carte du 5 février 2015. La déchetterie, qui est largement surélevée, était sous l'eau, entre 50 cm et 1 mètre. Ici, vous aviez la voie ferrée qui était submergée à cet endroit-là. Ce qui signifie que votre voie ferrée, elle fait donc ça, un creux, puis elle remonte. Le jour où vous verrez une voie ferrée qui fait ça, je pense que la SNCF sera très inquiète. Voilà, donc ça, c'est pas possible. Donc, en apportant ces éléments-là, et en plus, on a réussi à voir le visuel du modèle numérique de terrain, et on voyait bien qu'il y a un problème.
J'ai pas suivi le creux de la voie ferrée, parce que tu disais, c'est un creux, la voie ferrée n'est pas définie comme la même, c'est ça?
Bah, ici, tu es, il n'y a pas d'inondation. Bon, le terrain, ici, tu n'as pas d'inondation. Ici, tu submerges la voie. Et ici, de nouveau, tu ne submerges plus la voie. C'est pas possible, ça. Ta voie ferrée, elle ne peut pas faire de cuvette.
Mais ouais,
hein, elle le fait peut-être sur 10 km ou sur 15 km, mais pas sur 400, sur 300 mètres. D'accord ? Bon. Donc, moyennant ça, dans des GTO, voilà, qui ne pouvaient être contestées. L'État a donc missionné, parce que là, là ça fait l'objet d'une réunion ici d'ailleurs, avec le sous-préfet, a donc missionné un bureau d'expertise, ce qui a permis de rectifier localement la carte de l'aléa, voire carte ci-dessous. Ça, c'était après la prise en compte du nouveau MNT. On voit qu'ici, on avait plus de 1,50 m d'eau. Là, il n'y a plus. On est bien plus bas. Mais, de toute façon, partout en dessous d'un mètre. D'accord ? Bon, ça, c'était le 19 octobre 2016. Ce n'est pas terminé sur ce secteur-là, mais pour ce point-là, ça suffit, en fait. Ceci dit, nous avons pu agir dans ce cas, parce que le contexte rendait l'erreur évidente. Aléa de hauteur d'eau surmergeant la voie ferrée sur un secteur et la déchetterie nettement surélevée, deux points distants de près de 400 mètres. Dans ces conditions, il est tout à fait probable que de nombreuses zones font l'objet d'imprécisions significatives non détectables à la simple observation visuelle. Parce que là, on a eu du bol, parce qu'on a vu ça et on a vu ça. Après, vous ne pouvez pas vous pointer sur le terrain et dire là, c'est faux, vous pouvez faire des mesures. Vous ne pouvez pas. Bon. Donc, voilà, on dit qu'en fait, bon, ça a été traité, hein, c'est bon, il n'y a plus d'erreur, hein. Ça a été mesuré, des géomètres, etc. Mais vous devez avoir des tas d'autres zones partout où c'est pas la vérité. Du moins, c'est ce que ça laisse penser. Je peux vous dire que pour avoir regardé le modèle numérique de terrain, c'est un domaine que je connais un peu, mais pour l'avoir regardé même visuellement, j'ai tout de suite vu qu'il y avait un problème. Ça veut dire que les gens de la SAFEJ qui ont travaillé ne se sont jamais posé la question de la qualité du modèle numérique de terre.
Et la deuxième carte, si je la comprends bien, la voie ferrée, il n'avait pas comme une zone qui serait inondée, il n'y a pas de...
Il est à hauteur d'eau depuis la base. Quelle confiance on peut faire à ça.
Le but de cette démonstration, c'est de dire que là, on a eu du bol. Effectivement, ça se voyait à l'œil, pour quelqu'un qui est un peu attentif. Mais il doit y avoir des tas de zones où vous ne pouvez pas le voir à l'œil. Alors, ce que je mets après, c'est la simple observation visuelle. Il est donc indispensable de faire procéder à un contrôle de qualité du modèle numérique selon une méthode scientifiquement éprouvée, puis de refaire un calcul de l'aléa. En fait, quand on est dans ce cadre-là, surtout vu les conséquences financières, en gros, on envoie un géomètre qui va faire des relevés, je ne sais pas, tous les kilomètres, tous les... Voilà, il va faire des relevés un peu partout. Et après, on va regarder la différence avec le modèle numérique au terrain. Et généralement, ça mène à ce qu'on appelle des calques de qualité. On dit, voilà, sur telle zone, là, c'est très précis. Sur telle zone, continue la configuration du terrain, c'est un peu moins précis, etc. Voilà. Donc ça, c'est un point. Je pense que c'est un point assez important si jamais on va plus loin au niveau juridique. Septième point. Ça va pour ce point-là, c'est un peu hard, mais le projet de règlement inclut des contraintes uniquement liées à l'environnement et à un zonage spécifique, zone d'expansion de crues à fort enjeu de préservation, ce qui n'est absolument pas sa fonction. En outre, cette évolution risque d'introduire dans le temps des conflits avec l'évolution des règlements liés à l'environnement, voire de bloquer des possibilités, compensations, etc., que le législateur a voulu ou voudra permettre dans la réglementation consacrée à l'environnement. Il convient donc de supprimer ces contraintes. Clôture devant satisfaire au passage à faune, c'est un nom croix, c'est marqué ça. C'est peut-être justifié, mais pas dans le document d'inondation. Voilà. Et en particulier, la catégorie des zones d'expansion de crues à fort enjeu de préservation, puisque cette dernière n'est en rien liée aux inondations. En outre, il faut souligner qu'aucune méthodologie précise n'est fournie pour la définition de ces zones, en dépit des engagements pris à plusieurs reprises par l'État pendant la concertation. Le passage d'une classification de zone d'expansion de crues à zone d'expansion de crues à enjeu fort de préservation paraît ainsi relever de l'arbitraire. On peut continuer. Voilà, ça va pour ce point-là. Huitième point. L'obligation de conduire des diagnostics de vulnérabilité, puis rapidement des travaux sur les biens existants dans la limite de 10% de la valeur vénale du bien, va impliquer du coût important au niveau des collectivités, des particuliers et des entreprises concernées. Nous demandons donc la suppression de ces mesures, ou à minima l'augmentation des délais et la réduction, pardon pour le S, la réduction du nombre de personnes concernées. Voilà. 9. Le projet présenté se traduit par un quasi-gel du territoire de la commune de Verberie, en particulier avec la mise en place des zones d'expansion de crues. Il s'agit en effet de création de friches qui seront fortement susceptibles de faire l'objet d'occupations illégales et d'activités clandestines que nous n'aurons pas les moyens d'empêcher. Nous demandons donc que les zones situées à proximité des zones urbanisées ne soient pas classées en zone d'expansion de crue, mais dans un zonage réglementaire permettant, dans la mesure où l'aléa de hauteur d'eau l'autorise, une urbanisation éventuelle. Vous avez vu, là, tout est... Enfin, ça colle, quoi, la zone d'expansion de crue, elle colle aux habitations. Liaison R22 R31. Le projet de liaison R22 R31, infrastructure structurante et vitale pour le territoire, n'a pas été prise en compte par le PPRI, or c'est absolument nécessaire. Sa mise en place est primordiale pour le désenclavement de la vallée de l'Automne, bien au-delà des zones inondables, ainsi que pour le développement de la plateforme multimodale de Longueuil-Saint-Marie, qui interviendra dans le cadre de la mise en service des projets CSNE et MAGEO. En effet, sans cette liaison, le développement de la conteneurisation sur la plateforme et la circulation routière des poids lourds qui en découlent à son voisinage bloquera la ville de Verdery, notamment pour les transports de marchandises et matériaux à destination des zones situées à l'est. Parce que vers le nord et le sud, on peut penser qu'ils partent vers Paris ou vers... Ça, c'était sur le règlement. Sur le zonage. Secteur de la main fermée. Sur le PLU de la commune actuellement en vigueur, ce secteur est destiné à recevoir des activités économiques. Bien qu'il soit impacté par les crues sur une faible proportion et dans tous les cas avec un aléa de hauteur d'eau inférieur à 50 cm, le projet de PPRI place aujourd'hui sur ce secteur une zone d'expansion de crues, empêchant ainsi sans raison l'utilisation de la partie inondable pour des projets économiques. Dans une lettre du 7 novembre 2016, après les multiples révisions de l'aléa de hauteur d'eau sur la zone, le sous-préfet de Senlis écrivait d'ailleurs à propos de ce secteur, il est convenu que les hauteurs d'eau identifiées ne rendent pas inconstructible le terrain, des permis de construire pourront être délivrés accompagnés de prescriptions. En outre, la circulaire du 24 avril 2016 relative aux dispositions applicables aux bâtis et aux ouvrages existants en zone inondable définit les zones d'expansion des crues comme les secteurs où la crue peut stocker un volume important, ce qui n'est absolument pas le cas sur cette zone, où l'eau doit d'ailleurs traverser la voie ferrée, puisqu'il n'y a pas de débordement, ce qui semble pour le moins étrange. On peut monter sur la carte, là. Voilà, donc vous voyez là, l'eau, pour qu'elle passe, voilà. Alors l'explication de l'État sur cette affaire-là, en dessous, il y a des busages. Et les busages, en fait, aujourd'hui, on a des dispositifs pour mettre dans les busages et pour bloquer en cas d'inondation. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième argument avancé par l'État, c'est de toute façon, votre voie ferrée n'a pas fait l'objet d'une étude de danger, donc elle ne peut pas être prise en compte. Parce que vous savez que les digues doivent faire l'objet d'une étude de danger pour être prise en compte. Donc, quand vous voyez le mastodonte qui est ici, voilà, c'est un déplaçage suffisant. Donc, voilà, nous demandons donc à ce que la zone fermée soit placée en zone non inondable, parce qu'effectivement, il n'y a pas de débordement, en fait, hein, ou à minima, qu'un classement qui autorise l'urbanisation soit adopté. Et là, j'ai mis la carte finale de l'aléa. Ça, c'est la carte finale du 18 novembre 2016, après reprise du MNT, dont j'ai parlé avant, et prise en compte des fouilles archéologiques. Donc, voilà ce qui reste, en fait, là. Vous voyez, il reste un peu de bleu là, que vous retrouvez effectivement ici. Voilà, et ici. Alors ici, ça, c'est justement en zone c'est un classement de zone urbanisée, ça. C'est 50 cm là, c'est l'aléa faible, dans ce que je vous avais montré tout à l'heure. Donc ça se prend en compte. Hein. Là, par contre, zone d'expansion de crue, là, ça ne se prend pas en compte, ça. Hein. Ça bloque tout. Voilà, donc ça, c'est ce point-là. Ensuite, extension de la zone à urbaniser près de la gare. La commune demande que la zone à urbaniser près de la gare soit étendue aux zones de couleur vert clair, voilà ici, zone d'expansion de crue sur l'extrait de cartes placées ci-dessous. Bon, si jamais on fait l'acquisition de ces terrains-là, peut-être, ce serait peut-être intéressant que puisse éventuellement urbaniser cette zone. Sachant qu'il n'y a pas de projet aujourd'hui. Hein. 3. Zone dédiée au projet d'hébergement de loisirs. Manifestement, la fiche projet rédigée dans le cadre de l'atelier national n'a pas été prise en compte. Ainsi, sur la partie située à l'est du plan d'eau, donc cette partie-là, à l'est du plan d'eau, la bande sur laquelle une urbanisation pré-contrainte est autorisée et qui jouxte une zone d'expansion de crue est d'à peine plus de 10 mètres de large. Je parle de cette petite zone qui est ici.
rendant dans les faits impossible la mise en place d'un projet d'hébergement léger de loisirs. Nous demandons que l'ensemble de la zone d'extension de crue soit classée en zone urbanisable afin de rendre possible la mise en place du projet d'hébergement léger de loisirs. Voilà, je crois que c'est la fin. Si tu vas plus bas, il n'y a plus rien. Voilà. Bon, voilà, question. C'est un peu long, hein, mais c'est un document compliqué, complexe.
Par exemple, je comprends bien, sinon je peux
on ne fait rien, quoi, on laisse comme ça, on laisse aller.
Non, j'ai raison, mais une fois qu'on a entendu le tribunal, comme avait fait Chevrière, comme l'année dernière, et on va voir bientôt sur certaines zones. Et malheureusement, ça se finira si on souhaite le tribunal, car là, l'État ne prendra en rien. Les observations ont été faites, mais je veux dire, tout ça s'est passé. Le dernier PPRI fait 30 pages. Alors, je ne sais même pas si elles ont été lues. Hein. Alors, vous savez, dans ce domaine, avec l'État, je ne fais plus guère que l'illusion.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, on n'est pas les seuls, qu'il y a des. Voilà, il y a des gens qui pensent très carré, très, très honnêtement, qu'ils iront au tribunal, avec des juristes. Et ensuite, par contre, si on va au tribunal et qu'on n'a pas écrit ça, c'est même pas la peine.
Ah, tout à fait, je suis d'accord avec vous.
Donc c'est absolument nécessaire de passer par
là. Quelle confiance on peut faire aujourd'hui à la cartographie, quoi. Ouais, ça me fait peur, ça. Même la nouvelle, enfin, si la première était fausse.
Ils ont fait un modèle numérique de terrain avec un LIDAR. Donc c'est quelque chose de très performant, hein, effectivement. C'est en fait un laser, hein, qui regarde le sol, qui fait des mesures extrêmement précises à bord d'un avion. Puis comme vous avez la trajectoire de l'avion de manière très précise, vous arrivez à recalculer, c'est des maths après, hein, des physiques, et vous arrivez à recalculer le modèle de terrain. Visiblement, sur la main fermée, ils étaient en limite de capacité. Mais personne n'a rien vérifié. C'est ça qui est grave, en fait. C'est que personne n'a rien vérifié. Et moi, j'ai détecté ce secteur-là, mais je sais qu'il y a d'autres secteurs qui ont été détectés dans d'autres endroits. Bon, je n'ai pas eu le temps de m'y intéresser, hein, déjà, la charge de travail est assez lourde comme ça. Donc, moi, j'ai mis ça. C'est la juxtaposition de tout ça qui doit normalement. Et puis ensuite, il y a effectivement il va y avoir l'enquête publique. Et là, il faut que les gens se mobilisent, hein. Ils ne se mobilisent pas. On avait quand même eu un début de mobilisation intéressante lorsque l'État était venu présenter son projet. Pour nous, c'était
à Longueuil.
C'était à Longueuil. Donc, il y a des gens qui s'étaient déplacés de Verberie. Hein. On avait fait un petit papier, d'ailleurs, qu'on avait distribué dans toutes les maisons qui sont dans les secteurs de zones inondables. Les gens étaient venus et les gens avaient effectivement... ils n'étaient pas contents, quoi. Moi, j'ai assisté à deux autres réunions. Non, une. Il y en a une à Tourotte et il y en a une à Clairoy. J'ai assisté à celle de Clairoy. C'était la même chose. Donc, il faut que les gens se mobilisent et se bougent. Hein. Sinon, l'État, aujourd'hui, elle ouvre les parapluies. L'État, c'est plutôt, d'ailleurs, c'est pas forcément du niveau politique, en fait. Hein, mais, l'État ouvre les parapluies. Et derrière ça, oui, les assureurs sont aussi à la manœuvre en disant de toute façon, nous, on ne peut plus payer. Tous les ans, il y a de plus en plus de choses comme ça. Et il faut prendre des mesures pour réduire les coûts qui sont liés aux inondations.
Ce qui s'est passé, en une certaine époque, on a laissé un peu faire sur le on a tout bétonné, on a construit un peu partout. Par force d'avoir des inondations des pluies torrentielles.
Voilà, très honnêtement, vous avez raison, mais ceci dit, ça ne vaut pas pour ce qu'on regarde là, parce que typiquement, il n'y a qu'une chose qui est regardée, là, c'est la crue de l'Oise.
Oui, parce que...
Ils n'ont pas regardé le reste, hein, c'est uniquement la crue de l'Oise. Donc l'automne n'a pas été du tout regardé.
Enfin, quand il y a la crue de l'Oise, l'automne est déporté aussi. Hein.
Bien sûr.
Ça remonte.
Non, mais ils ont pris en compte l'effet de la crue de l'Oise sur l'automne, mais l'effet d'une crue de l'automne en elle-même, n'a pas été prise en compte. D'accord ? Comment ?
L'automne déborde pas, si l'ouest ne déborde pas.
Bon, voilà.
L'automne monte en
même temps. Oui, mais enfin, sur l'automne, il y a des travaux qui sont actuellement sur les péages, sur un certain nombre
voilà.
de choses. On va ralentir, mais...
Bon, Chou, on peut y rester longtemps. Hein. Il y a 1000 pages, hein, donc on peut y rester longtemps. Est-ce qu'il y a encore des questions sur ce sujet-là ? Bien. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Très bien, l'avis est adopté à l'unanimité. On passe sur un sujet beaucoup plus léger. Donc le schéma d'aménagement de gestion des eaux Oisaronde. Donc là j'ai une petite carte à projeter également. Bon là on est en train de revoir donc les schémas d'aménagement en gestion des eaux. Donc tout territoire doit être compris sur un bassin versant. Attends que la machine fasse son œuvre. Bon, tout territoire doit être pris en compte sur un bassin versant, un bassin versant, et doit être compris dans un SAD, schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Or aujourd'hui, il y avait des petites disparités qui ont été faites, il y a eu des ajustements. Donc au niveau de Oisaronde, à laquelle une partie de notre territoire appartient, comme une deuxième modification, on nous demande effectivement notre avis si on est favorable ou pas. Bon, la première remarque, c'est que vous voyez qu'on n'est absolument pas concerné par ces modifications, hein, vers le riz et...
Nous, on est qu'en partie.
Voilà, c'est de l'or, hein. On est absolument pas concerné. Vous avez le bassin de l'automne et on arrive donc en limite et vous avez le bassin de la Nonette qui est ici. Donc, pour ces cartes-là, vous voyez qu'il y a des communes qui rentrent dedans, des communes qui sont supprimées, parce qu'elles sont attribuées à un autre schéma de gestion des eaux. Notamment, il y a le schéma de gestion des eaux de l'Oise moyenne qui est émergent, et puis celle d'un terrain que je connais, de zones que je connais un peu moins bien, la Brèche et le terrain.
Oui.
C'est un peu la même chose. En tout état de cause, les gens regardent ces aspects-là maintenant. Donc, tous les terrains sont couverts par un SAGE, ce qui ne veut pas dire que chaque commune. Fait partie totalement d'un SAGE. Nous, par exemple, on est sur trois bassins versants. L'automne, l'Oisaronde et la Nonette. Donc, bienvenue. Bon, on est quand même un cas un peu extrême. Moi, je ne vois aucune raison pour donner un avis défavorable à cette affaire-là. Sur ces limites, on n'est pas impacté. Il y a un travail de cohérence au niveau d'Oisaronde. Je pense que pour avoir été dans les au moins deux maintenant syndicats régulièrement, celui de l'Oisaronde a une avance notoire en termes de méthodologie et de sérieux, de méthode de travail. Voilà, donc je pense que c'est bien ce qui se passe. Sachant qu'ils ont une problématique difficile, puisqu'ils ont une zone de restriction des eaux sur une partie de leur territoire, mais ça ne nous concerne pas, mais on n'est pas impacté par cette affaire. Voilà, donc sur ce point-là, je vous propose de donner un avis favorable. Est-ce qu'il y a des questions ? Hein, ils prennent en compte les limites des bassins hydrographiques, autrement dit, les lignes de crête. C'est comme ça que c'est construit aujourd'hui. Donc c'est construit en surface, en fait. On pourrait se demander s'il ne faut pas le construire en sous-sol, puisque c'est les nappes, et les nappes, c'est le sous-sol. Mais bon, à un moment donné, il y a des limites à tout.
C'est les eaux superficielles qui définissent ça.
On passe au vote sur ce point-là. Qui, Pardon, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Acquisition de terrain. Ça va être le point suivant. Oui.
Merci. Donc, je reviens sur... là, c'est juste le troisième onglet. Voilà. Donc, je reviens sur ce terrain-là. Alors, d'abord, quelques précisions. Donc, sur ce terrain, en fait, au départ, la SNCF n'était pas vendeur. C'est quelqu'un... N'était pas vendeuse, pardon. C'est quelqu'un qui est venu lui proposer de l'acheter. À partir de ce moment-là, la SNCF a mis son terrain en vente. Je pense que c'est exactement ce qui s'est passé. A mis son terrain en vente. Donc derrière, dans ce cadre-là, les capacités de négociation sont limitées, puisque de toute façon, ils ont un acheteur, et eux, le message qu'ils nous font passer, c'est nous, on vend au meilleur prix. Ce qui, on ne peut pas les en blâmer. Je pense qu'on... Bon. Donc... L'autre fois, il m'était posé une question sur le problème de géomètre. Alors effectivement, ils vont nous le faire payer cette affaire de géomètre. Ceci dit, ça a été estimé à environ 530 euros. Bon, voilà, c'est pas ça. Par contre, ils sont revenus avec nous, vers nous avec une nouvelle servitude. La nouvelle servitude, ça consiste en à inscrire cette servitude-là dans l'acte de vente. C'est de mettre en place une clôture, comment on l'appelle, de sécurité SNCF ? De sécurité agréée SNCF sur la limite du terrain.
Ça consiste en quoi, ça ?
Alors, je laisse la parole, Joker, je laisse la parole à Monsieur Leblanc. C'est sympa, hein? Ça s'appelle une passe à l'aile.
Donc, les clôtures agréées SNCF, c'est celles qu'on pose déjà actuellement. Sauf qu'il y a une marque qui est bien précisée. C'est la marque BKFix. Voilà, type BKFix, avec des mailles de 200 par 50, treillis soudés en 4 ou 5 mm, fixation par clip. Donc, il y a une obligation d'origine de matériel. Ça doit faire 1,80
m. C'est juste le long de la voie ferrée. Mais on va y arriver.
Alors il faut que ce soit également mis à la terre sur l'ensemble de la clôture. Et lors des travaux, il faut obligatoirement qu'il y ait une pause et une dépose d'un grillage orange de sécurité pendant les travaux de clôture. Tout ça se paye.
Donc, pour toute la longueur, c'est bien ça, hein, Monsieur Leblanc.
Oui,
on a fait faire un devis, c'est ça ?
Oui, un devis.
Et donc, le devis est à 11 000 ?
On est à 11 664 TTC.
Alors ça, c'est le premier point. L'autre point, on a quand même reçu des personnes de la SNCF pour traiter d'un autre sujet, qui était la phase 3 des travaux qu'ils vont faire sur toute l'infrastructure ferroviaire qui se trouve... à droite, donc, de cette zone. Donc on l'a interrogé, parce que moi je suis allé sur place. Honnêtement, la zone de bois que vous voyez là, allez-y, essayez de la traverser, vous verrez. C'est très sympa. Ah bah ouais, tu vas être déchiré de partout, c'est bon, là, t'y vas. Aujourd'hui, de toute façon, premier point, il n'y a pas de clôture. Sauf au début, où il y a une palissade béton, on peut appeler ça comme ça ?
Oui, une palissade béton.
Hein, d'un mètre de haut à peu près, un mètre dix, un mètre, bon, voilà, qui est bien abîmée d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Et en gros, la SNCF nous dit, oui, d'accord, c'est comme ça, mais de toute façon, nous, maintenant, quand on vend les terrains, on met cette servitude. C'est une manière de se protéger, en fait. Hein. Voilà.
Excusez-moi, Michel, il y a un truc qui est marrant quand même. Oui, c'était pas prévu de le vendre.
Non.
Mais il y a un truc qui est marrant, parce que ce terrain-là, où il est placé, vous traversez juste le pont, et l'autre partie à côté, c'est grillagé. Donc ils auraient quand même pu grillager aussi, parce que tout le restant après est grillagé. Il n'y a que cette partie-là qui n'est pas grillagée. Il y a quand même un truc qui a été fait un peu.
Quelle partie qui est grillagée?
Tous, sauf celle-ci.
Non, mais attends, tu me parles de laquelle là?
Là, justement, c'est le terrain que vous me parlez. Et bien, vous passez sous le pont, sous le tunnel qui est la départementale au-dessus. Derrière, c'est grillagé. Vous avez grillé. Et vous continuez. Après, vous allez plus loin de l'autre côté, c'est grillagé. Jusqu'à Saint-Saulve-Saint-Étienne-Béthisy. Il n'y a que cette
partie-là. Ah oui, de ce côté-là.
Des deux côtés.
Oui.
Il n'y a que cette partie-là qui n'est pas grillagée.
Oui.
Donc.
Attendez, vous pouvez remettre. Alors, juste quelques éléments. La partie grillagée, notamment sur toute. J'apporte des éléments, ce n'est pas de la contradiction. J'apporte des éléments supplémentaires. Toute la partie grillagée qui se trouve donc à droite de. La route de Compiègne, tout le monde voit ce dont je veux parler. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une belle, effectivement, clôture, mais tout ça, ça a été fait récemment.
Il y a 2 ans.
Un peu moins, même. Mais ça a été fait dans le cadre des travaux sur, justement, la plateforme qui est maintenant consacrée à un travail spécifique de la SNCF.
Donc, grillagé par ici, il y a moins de 2 ans. Donc, grillagé de l'autre côté, il y a un peu plus de 2 ans.
Alors, grillagé de l'autre côté, je ne sais pas. Je parle juste de la partie à droite. Donc, c'est pour dire que avant, je sais pourquoi ils ont fait ces travaux-là de ce côté-là. C'est parce que, voilà, il y a une vocation, il y a etc. Donc, ils l'ont fait à droite. Je ne parle pas à gauche. À droite. Mais avant, depuis la RD 932 jusque je ne sais pas où, il n'y avait pas du tout de grillage. On est d'accord? Bon, donc, ce que tu dis, pourquoi pas, mais bon, aussi, à un moment donné, ils ont aussi grillagé, mis du béton parce qu'on s'est battu pour qu'il n'y ait plus une invasion intempestive sur un terrain. Donc là, ils l'ont fait aussi à notre demande, là, quelque part. Hein. Hmm? Ah ben oui, oui. Mais ils l'ont fait à notre demande, ce que je veux dire, voilà. Moi, je pense pas que... Enfin, voilà, je... Oui, d'accord, je comprends ce que tu dis, mais je ne pense pas qu'il y ait une théorie du complot derrière. Enfin, il n'y a pas...
Moi, je pense qu'ils avaient des idées de vendre. Ils se sont dit, on ne va pas se remercier à briller, ils ne vont pas nous mettre d'oseille. On laisse comme ça, c'est sûr.
Non, ouais. Non, 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 attends. Mais c'est possible. Ceci dit, pour nous, qu'est-ce que ça va changer derrière? Et puis... Bah oui, mais... Et puis, l'autre point, pardon, j'avais quelque chose à dire sur ce sujet-là, je suis en train, il faut que ça me revienne. Oui, l'autre point, c'est que la SNCF, aujourd'hui, elle grillage quand ça lui est utile. Après, elle n'écarte pas la possibilité de vendre des terrains. La preuve, on en a acheté un autre, hein, il y a quelque temps. Elle n'écarte pas, elle, la possibilité de vendre des terrains. Maintenant, elle n'entame pas forcément une action systématique de vente sur des terrains. Si on lui propose et elle dit « ce terrain-là ne me sert à rien », elle est plutôt, je pense, aujourd'hui, comme beaucoup d'ailleurs d'administrations, etc., dans une logique de vente. Mais dire qu'ils n'ont pas grillagé justement parce qu'ils n'ont pas grillagé parce qu'ils n'avaient pas besoin de ce terrain. En tout cas, ce que je voulais dire quand même, pour en arriver là, c'est qu'à mon avis, sur le grillage à mettre en place, là, on a 11 000 euros, je ne me vois pas grillager la partie qui est dans les bois, typiquement. Voilà. Donc, bon.
Parce que lorsqu'on a acheté à la SNCF, à la CCBA, on a tué toute l'aire de retournement, etc. On a payé ça pour 36 sous, et on n'a eu aucune obligation de grillager.
Oui, il y a quelques années. C'est pas nous qui l'avons demandé là, hein, typiquement. Hein, et là, la SNCF n'a pas non plus d'intérêt de. Oui.
On revient toujours sur un autre secteur. On est en acquisition, mais on est en forme de location, à disposition. Et pour utiliser les terrains de la SNCF, ils nous ont fait la même. Donc on a dû.
Sécurité.
Donc clôturé. Et de toute façon, pour être très clair, si jamais on
ne le
faisait pas,
responsabilité de la commune.
Ouais. Typiquement là, de toute façon, le mécanisme, c'est le même que le PPRI tout à l'heure et des études de vulnérabilité. Vous faites ce que vous voulez après. S'il n'y arrive rien, tout va bien.
Oui, ils l'ont signé, c'est dans la propre tâche.
C'est facile d'avertir et dégager de.
Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc. Donc, moi, je demande typiquement votre confiance pour poursuivre l'acquisition de ce terrain, selon les prix qui avaient été avancés, qui, voilà, sachant qu'on risque d'avoir un coût supplémentaire qui va provenir de cette clôture. La raison pour laquelle je voulais le repasser ici en conseil municipal, pour que tout le monde soit bien au courant.
Oui, mais là, comme tu dis, il faut que ça soit la commune qui borne le terrain.
Oui.
C'est pas l'acheteur de borner le terrain, c'est au vendeur de borner.
Pas bon, c'est le géomètre, tu veux dire.
On fait comme...
Ah si, c'est l'acheteur,
non,
quand j'ai acheté...
Non, la loi dit bien que c'est un vendeur qui borne le terrain, c'est pas l'acheteur qui doit borner.
Si on veut pas, on n'achète pas. C'est très clair. Et puis demain, on se retrouvera avec ce qu'on aura. Mais tu ne viendras pas pleurer.
Mais ce n'est pas une histoire de pleurer.
Mais
c'est. C'est-à-dire que la SNCF, elle profite du système.
Mais bien sûr, mais qu'est-ce que tu veux y faire? Qu'est-ce que tu veux y faire, Michel? Qu'est-ce que tu veux y faire? On n'est pas la SNCF. Eh bien oui, on n'a pas le choix. On a le choix, si, on a le choix de ne pas acheter.
Il y a des règles à respecter.
On a le choix de ne pas acheter. Et puis demain, les gens qui sont derrière, ils auront ce qu'ils auront.
Moi, voilà. Maintenant, ce que je voudrais savoir, on achète le terrain, qu'est-ce qu'on en paye du terrain? Parce que jusqu'à maintenant, personne ne sait ce qu'on en paye. On veut savoir ce qui va devenir ce terrain.
Il n'est pas constructible actuellement.
Pour le moment, ça permet de ne pas voir s'installer. Excuse-moi, je peux te répondre. Pour le moment, ça permet de protéger contre des choses qu'on ne voudrait pas voir s'installer. Voilà, c'est tout. On n'y fera rien pour le moment.
Je ne crois pas, parce que quand on aura acheté le terrain, c'est plus Michel Arnoux qui en aura la responsabilité, mais ça va être Marigny qui va gérer ça.
Non, pas du tout.
Mais pour être un peu réaliste, si Marigny décide... c'est la tête.
Mais non, Michel,
mais
je te dis, mais
tu achètes un terrain, mais tu
sais de... parce que... Ah. Non. Tu parles de choses que tu connais, écoute. Tu racontes n'importe quoi.
Mais non, je raconte pas n'importe quoi.
Tu racontes n'importe quoi, je suis désolé.
Michel,
allons.
On est là aussi pour dire, bon, tous, opposition et non-opposition, pour dire, eh, au Marigny ou pas, ou pas, ou qui, là, ce que tu veux. Et c'est nous qui gèrent notre vie, là. Tu vas te détendre. Si c'est ce que, tu dis, non, mais non, si c'est ce que tu dis, que Marigny, il commande, et bien nous tous, on s'en va. Le Michel, il sert plus à rien. Madame Fusée, elle sert plus à rien. Et c'est tout. Et puis c'est lui qui gère. Bah non. Et bah t'auras des mecs comme moi, et peut-être comme d'autres qui sont là, qui diront être père. Tu vas le détendre, on est comme vous voulez.
Vous achetez le terrain, vous le bornez, et puis vous le dégagez. Et la SNCF, elle est contente.
Mais non, mais c'est ça que vous voulez. Je rappelle.
C'est
pour ça qu'il faut faire quelque chose. T'imagines les habitants de la gare.
Exactement. Là, Cécile dit, c'est vrai. Moi, je pense que là, un jour ou l'autre, il va te mettre des gitans dans ce coin-là.
Mais
t'as raison, rigole.
Je rigole parce que tu racontes n'importe quoi, Michel.
T'as raison. Moi, de toute manière...
Attendez, chacun a donné son avis. Il y a Jean-Claude qui voulait s'exprimer. Je voudrais que Jean-Claude s'exprime. Voilà. Et ensuite, on va passer au vote.
Arrêtez de vous engueuler pour des conneries, merde.
Je rappelle qu'il s'agit de 500 euros.
Il y a un truc qui a de l'argent. C'est de l'argent. C'est vrai, c'est de l'argent. Je suis d'accord, c'est 50 000 euros, ça fait chier. C'est encore 11 000 euros d'une clôture. C'est 530 euros de porte-neuf. Juste une parenthèse, on a acheté une parcelle forestière avec mon frère à Bonpoint. On a payé 730 euros les 4 mois. On a payé. C'est tout. Après, voilà, c'est une autre chose. Maintenant, ce terrain-là, il est quand même sympa. Si tu vas me claquer des baraques là-dessus, je vais péter un plomb. Est-ce qu'on peut en faire qui peut rapporter des sous? Il faut arrêter de dire que les gens sont là. Ça peut être sympa. Non, mais ça peut être sympa. C'est faire comme il y avait à l'époque de M. Doury, des jardins communaux qu'on peut louer. Parce que louer un jardin à 15 euros l'année, tu mets une petite cahute, tu mets une machine pour ta flotte, tout ça, tu fais un truc sympa pour les gens, à 15 balles, ça te fait chier, quoi. Tu loues un jardin à 50 euros, déjà, c'est sympa. Tu fais un beau truc sympa, tu dis petite parcelle par bonhomme, tu peux en faire quelques-uns. Et ton petit parc boisé là, tu le laisses boiser, il faut arrêter d'être le béton. Oh, on est où là? On est en plus à la gare, ce qui est intéressant, c'est. Et ça, je me battrai tout le temps parce que tant que je suis là, c'est le seul quartier de Verberie qui reste des champs, quoi. On a des champs. Voilà, il faut arrêter de bétonner.
Et moi, je pense que ce terrain-là, si on veut l'acquérir, et Michel, il a raison, parce que si on va encore cherniquer, ça va encore être des carbones ou quoi que ce soit, ça va encore être du bordel. Et il faut arrêter, parce que entre les gares, c'est un défautoir. La pointe de la gare, c'est un défautoir, parce que c'est des carbones.
Éléments qu'on... Éléments complémentaires. Éléments complémentaires. Aujourd'hui, sur l'installation ferroviaire, vous savez qu'elle est utilisée pour faire de l'entretien de voies ferrées. Ils ont des trains super de nouvelle génération. D'un côté, c'est l'ancienne voie. De l'autre côté, c'est la nouvelle voie. Ils ont récupéré tout le ballast usé, etc. Ils le ramènent ici. Et ensuite, ça doit être évacué par d'autres personnes. Et eux, ils le vendent. Donc, d'ailleurs, vous pouvez voir, vous traversez le pont de Port-Salut, vous allez 200 mètres plus loin, vous regardez sur votre droite en prenant la direction de Chevrière, et vous verrez un magnifique, des magnifiques tas de ballast et de traverses. Et je pense qu'il y a des gens qui trouvent que ça fait loin, et qu'il y a peut-être justement un endroit plus proche pour déposer ce genre de matériel. Et puis après, il y a toutes les affaires qui ont été évoquées plus ou moins ici, sur des habitats, je le rappelle, en zone aujourd'hui naturelle, sur lesquels nous n'avons de toute façon pas de droit de préemption si nous ne lâchons pas. Voilà. Donc, voilà la situation dans laquelle on est. Maintenant, je pense qu'on passe au vote. Chacun s'est exprimé. J'ai donné la totalité des éléments. Donc, maintenant, voilà. Je demande qui est contre. Donc, un. Qui s'abstient ? Très bien. Donc, adopté à l'unanimité, moins une voix, Madame Jeuve. Bien. Nous allons passer sur des affaires plus administratives et qui vont demander moins... Vous en débattrez après, s'il vous plaît, messieurs, dames. Je vous propose de passer à la suite de l'ordre du jour. Nous avons voté. Modification du tableau des effectifs. Donc on passe dans un domaine tout à fait différent. Donc pour faire court, pardon, on se reconcentre, merci. Pour faire court, madame... Mince, du coup, j'ai un trou. Madame Delemotte va bientôt partir à la retraite. Donc Madame Delemotte, aujourd'hui, c'est la responsable de la crèche et il faut donc pourvoir à son remplacement. Donc son départ à la retraite devrait intervenir au 31 décembre 2017. Il est donc nécessaire de procéder au remplacement de cet agent. Aujourd'hui, nous avons une dame qui est employée à temps complet, qui exerce la mission de directrice adjointe et qui peut tout à fait prétendre à la direction de la crèche, puisque la capacité de la structure est de 20 places. Une modification de l'organigramme de la crèche dans ce sens conduirait donc à un recrutement extérieur pour un poste avec mission de seconder la nouvelle directrice. Afin d'opérer un recrutement assez large, je vous propose une modification du tableau des effectifs à compter du 1er janvier 2018 pour nous permettre ce recrutement, qui se traduira par la création de 2 postes. Mais la création de 2 postes, on a déjà joué ce coup-là pour la police municipale. Il ne s'agit pas de recruter 2 personnes, mais simplement de se laisser le choix du profil que l'on recrute, en fonction des gens qui répondront. Donc la création d'un poste d'éducateur de jeunes enfants en 35 heures sur 35, et la création d'un poste d'infirmier en soins généraux, 35 heures sur 35. Voilà, aujourd'hui, ce qu'on vous demande. Création de 2 postes, mais il n'est en aucun cas question de recruter 2 personnes, c'est au contraire se laisser une souplesse pour le recrutement. Oui, monsieur Floury.
La directrice de la crèche était une infirmière puéricultrice. Hein.
Oui.
Et avec c'est... ses diplômes d'infirmière puéricultrice, c'était pour cela qu'elle avait été choisie pour ce poste.
Oui.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, la personne qui prendrait la direction est infirmière puéricultrice?
Non.
Car pour les parents, c'était vraiment extrêmement important d'avoir la sécurité d'une infirmière puéricultrice qui gère la structure.
La réponse est non. Je me tourne vers Madame Jalot. La réponse est non pour la personne que nous avons mentionnée. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans un des deux postes, on vous demande la création d'un poste d'infirmier en soins généraux, 35 heures sur 35.
Un soin généraux, c'est un peu embêtant parce que il faudrait que ce soit un infirmier ou une infirmière puéricultrice. C'est quand même une spécialité
oui.
Dans le médical et qui est quand même beaucoup plus adaptée. Jean-Jacques n'est pas là, mais.
Certes, mais.
Ce serait quand même bien que ce soit quelqu'un de spécialisé. Parce que, vous savez, on n'est jamais à l'abri avec les tout petits au niveau de la responsabilité des crèches. Moi, c'est un parapluie. Hein. Vous savez, je fais comme l'État. Hein. Je fais comme la SNCF, comme la PPRI. Et lorsqu'il y a un accident.
Le statut de l'adjointe aujourd'hui, c'est une JE.
Je me tourne vers vous, madame.
Éducatrice jeune enfant.
Principale. Ah oui, pardon, éducatrice jeune enfant, oui.
Principale.
C'est pas pareil du tout, hein. C'est pas du tout le même nombre de. C'est pas du tout le même cursus. Pas le même niveau, hein. Bon.
Éducatrice jeune enfant, en général, c'est un peu plus 3. Et une infirmière éducatrice, c'est également les infirmières, c'est un peu plus 3. Et la question que je me pose. Je ne suis pas sûre que les infirmiers sortants soient encore dissociés en tant qu'infirmiers et infirmiers péricultrices. Puisque maintenant, le statut d'infirmier, c'est un tronc général. Par exemple, les infirmiers psychiatriques, ça n'existe plus. Donc, je ne suis pas sûre que les nouveaux.
C'est peut-être raison, hein. Je n'ai pas vérifié la législation sur les infirmières péricultrices. Je sais qu'avant, elle faisait 3 ans plus 2 ans, hein, donc c'était quand même 5 ans, donc c'est pour ça. J'attire l'attention, moi, c'est tout. Hein.
Alors on peut aussi recruter déjà, peut-être sur un poste infirmier, une personne qui a déjà une expérience dans le domaine. Ça peut aussi être une possibilité. Je veux dire, infirmière, certes, soins généraux, mais qui a déjà une expérience dans le domaine des crèches, par exemple, des jeunes enfants. Ah oui, bah voilà, donc ça valide
oui,
voilà. Plus ou moins ce que tu es en train de dire, Madame Carpentier.
Il n'y a plus de spécialisation.
Non, mais avant, alors, ce que vous auriez une faire, vous aviez pratiquement obligation d'avoir une infirmière péricultrice à la tête de la crèche. Hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque, Pontpoint était obligé de licencier personnel parce qu'il n'avait pas. Les diplômes, les qualifications nécessaires, c'est un des gros problèmes de la crèche de Pontpoint pourtant, parce que le personnel n'avait pas les qualifications nécessaires. Bon, maintenant, ça reste à vérifier. Hein. Je veux dire que je ne me suis pas penché sur la législation dernière des crèches
alors,
et de l'encadrement.
On prend en compte ce que vous dites, on va évidemment regarder tout ça. Ceci dit, je vous propose quand même de créer ces deux postes, hein, sachant que la création ne signifie pas, mais je vous l'ai déjà expliqué, un recrutement derrière obligatoire. Voilà. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Ensuite, régime indemnitaire. Donc. Régime indemnitaire, indemnité d'administration et de technicité. Donc, il s'agit du cas de M. Braillet, que nous avons recruté en tant qu'adjoint administratif avec mission d'agent de surveillance de la voie publique. Donc, le régime indemnitaire applicable au grade des adjoints administratifs doit être défini. Dans l'attente de la mise en place avant la fin de l'année du régime indemnitaire, tenant compte des fonctions, sujétions, expertise, engagement professionnel, c'est la nouvelle législation. Et afin de pouvoir verser à l'agent recruté une indemnité, Monsieur le Président de séance propose d'utiliser l'indemnité d'administration et de technicité. En fait, Monsieur Braillet, qui était à Senlis, avait une petite indemnité, c'était de l'ordre de 31 euros par mois, je crois. Et ce qu'on vous propose, c'est de remettre exactement la même chose. D'accord ? Alors, ce n'est pas tout à fait ce qui est écrit là, je vais y venir après. Mais dans les faits, ce sera ça. Donc, Monsieur le Président propose donc à l'Assemblée de créer l'indemnité d'administration et de technicité à compter du 1er juillet 2017 par référence à celle prévue par le décret 2002-61 du 14 janvier 2002 pour le grade des adjoints administratifs. Que le crédit ouvert dans le cadre duquel le maire effectue les attributions individuelles est calculé comme suit, montant de référence fois coefficient multiplicateur fois nombre d'agents concernés. Et donc là, on a pris un coefficient multiplicateur de 1. En voté, bon, c'est entre 1 et 8, donc on est au plus bas. Nombre d'agents, 1. Et le montant de référence est de 454,71 €. Si vous divisez par 12, ça fait plus de 31 €. Mais ce qui a été dit, c'est que c'est un montant maximum que vous m'autorisez et que c'est pas, on peut signer un montant qui est plus faible. Voilà. Et de verser, et je vous demande aussi, je propose à l'Assemblée, de verser mensuellement l'indemnité, alors on a mis aux agents concernés, en l'occurrence là, il s'agit plutôt de à l'agent concerné. Question ? Non ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voté à l'unanimité. Location de salle. Demande d'annulation. Donc... Je pense qu'on peut donner les noms, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Madame Émilie Riquier, domiciliée à Verberie, 6 bis, cavé du Lébouilly, suite à un décès, a demandé l'annulation de la location de la salle du château d'Aramont, qui devait avoir lieu les 16 et 17 septembre 2017. Je vous propose donc de procéder à l'annulation du contrat. Ouais, on peut peut-être débrancher... Bon, l'oiseau est beau, mais... Le bec, du moins. L'annulation du contrat de location de la salle du château pour les 16 et 17 septembre 2017, établi le 30 mars 2016 à la faveur de Madame Émilie Riquier. L'annulation partielle du titre numéro 622 qui a été émis le 12 mai 2016 concernant cette location d'un montant de 260 €. L'annulation partielle du titre numéro 1516 qui a été émis le 15 décembre 2016 concernant cette location d'un montant de 520 €. Les mandats correspondants à cette annulation sont d'un montant total de 780 € seront imputés sur l'article 673, titre annulé sur exercice antérieur. Question ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Titre irrécouvrable, créance admise en non-valeur. Alors... Je suis saisi par le receveur municipal pour l'admission en non-valeur de titres irrécouvrables émis pendant les années 90, 91 et 92. On va dire que. Voilà. Qui ont fait l'objet de poursuites infructueuses. Pour juste un mot, je parle sous le contrôle de l'adjoint finance, mais aujourd'hui, le trésor public est de plus en plus performant dans les poursuites qu'il entreprend. Ils ont adopté des méthodes qui leur permettent d'être plus performants qu'ils ne l'étaient avant. Un petit peu plus. Voilà, me dit Patrick à côté.
Vertu pour les ordures ménagères que j'avais déjà payé, un commandement. J'ai deux, trois patients qui ont reçu des commandements alors qu'ils avaient déjà payé. Et je vais dire que quand on a mis ça sur la CCDA, il y a belle durée que je suis le président, il y a belle durée que les gens avaient payé.
Mais vous savez bien, c'est la suite.
Ça va, c'est la suite du.
Vous savez bien que c'est la suite du départ des fonds à Strasbourg au lieu d'aller à Crépy-en-Valois et voilà.
Ah non, non, moi c'est des gens qui ont payé par chèque. Moi j'ai payé par chèque.
Ah ouais, les gens qui ont payé, oui, ils ont été poursuivis.
J'ai payé par chèque.
Ouais, mais bizarre.
J'en ai même encore qui ont payé, qui n'ont jamais été cités. Des gens qui n'ont jamais été débités.
Pour faire une
aparté
là-dessus, d'après ce que j'ai, parce que évidemment je suis pas à la manœuvre sur ces affaires-là, hein, mais la base de données typiquement contenait encore 11 000 lignes.
À corriger.
Ouais, personne ne comprenait. Donc voilà où ils en étaient. Hein. Donc, ils sont en train de résorber petit à petit. Maintenant, je ne suis pas à la manœuvre, je n'ai pas été voir la base de données de près. Ce qui est clair, M. Floury, c'est qu'à l'époque, à la fin de la CCBA, il y a eu un gros problème de reprise de données sur cette base de données. Et apparemment, il n'a pas été réglé.
Oui, Oui, mais enfin, attendez, il y avait 2500 foyers, ça. La base de données, en l'espace, on est quand même au mois de juin, début juillet, et en 6 mois, on n'a pas été foutu de reprendre 2500 noms. C'est quand même un peu problématique. Hein. Moi, je veux bien qu'on ne soit pas capable. Mais enfin, sur 25 jours, vous en prenez que 100 tous les jours, ça ne va pas vous prendre des heures et des heures. Hein. Surtout qu'avant que je parte, ça avait déjà été fait. Le repli de la base de données avait déjà été fait. J'ai lu un jour un article, j'ai dit, oh là là, on m'a prêté d'ailleurs à faire une contre-offensive sur le sujet. Puis j'ai dit, bon, on laisse tomber, mais... c'est quand même un problème. C'est quand même parce que personne ne s'est appelé au sujet après. On a dû dire, oh, bah, on a tellement de soucis avec autre chose. Et puis, on a laissé filer. Je crois que c'est ce qui s'est passé parce que, bon, c'était pas insurmontable. Hein. C'est pas Paris. Hein. Bon.
Il y avait une société qui était payée pour le faire, qui apparemment s'est toujours trouvée dans
la. En plus, ça a été corrigé. Bon. Derrière, ça a été corrigé, c'était même corrigé.
L'autre partie est absente, donc voilà.
Oui.
Ceci dit, donc on revient à nos titres irrécouvrables, émis pendant les années 90, 91 et 92, qui ont fait l'objet de poursuites infructueuses. Donc vous avez une liste de titres qui est proposée, là, dont le montant maximal est un titre de 91 de 2 915,74 €.
Il y a même plus, non, hein.
Il y a 4573.
Ah, il m'avait échappé, de 90. 4573,47 €. Donc là, on résorbe. C'est des titres qui ont donc plus aujourd'hui de 25 ans.
Les sociétés sont disparues. Ah, mais les sociétés n'existent plus.
En 90, c'était des francs, c'était pas des euros.
Atelier mécanique de verrerie, ça n'existe plus.
Ça a été converti en euros,
la somme.
Oui, oui, oui.
Oui, 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 c'est converti en euros.
Parce qu'en 90, c'était des francs. On multiplie par 6, ça faisait
56.
Non, l'État a converti en euros.
Donc, tout ça, je rappelle que ces affaires-là, ça reste quelque part dans nos comptes. On a l'impression d'avoir de l'argent, mais on ne l'a pas. On ne l'a plus. C'est du virtuel aujourd'hui. C'est irrécupérable, totalement irrécupérable. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de récupérer, je vous rappelle, dans les 4 ans, après la dernière relance du Trésor public. Je ne dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc, autant vous dire que là, on est très loin de ce qu'on peut faire. Toujours est-il qu'on avait prévu au budget effectivement une somme de mémoire de 15 000 € et que là je vous propose donc d'amettre en non-valeur les titres présentés pour un montant de 14 298,08 €. Donc là on est à l'année 92, je pense qu'on les a pris par ordre chronologique, ouais. C'est ça ? Donc il nous reste encore de 93 à 2016, 2017.
2016,
oui. 2017. Sachant qu'on regarde ça, l'adjoint finance regarde ça de très près. Donc, on n'a pas aujourd'hui de non-encaissement de 4 000 €. Loin d'être ça. Donc, je vous propose donc d'admettre en non-valeur les titres présentés pour un montant total de 14 298,08 €, de prélever le montant de la dépense sur un crédit suffisant inscrit au compte 6541, créance admise en non-valeur du budget de l'exercice en cours. Je propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Titre irrécouvrable, créance éteinte. Donc, monsieur le président de séance fait part à l'Assemblée de l'ordonnance conférant force exécutoire, donc en gros c'est terminé, c'est la loi, c'est le tribunal, à la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 7 novembre 2016 de la juge chargée du surendettement au tribunal d'instance de Compiègne. Cette ordonnance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles d'un monsieur et d'une dame dont vous avez les noms, pour le titre 312 émis le 30 mars 2009 d'un montant de 98 €. Bon, on est loin des 4 500. Hein. Solde location de la salle de la ferme pour les 20 et 21 juin 2009. Il expose qu'il est saisi, ah oui, je suis saisi par le receveur principal pour les admissions en non-valeur de cette créance éteinte par la loi. Donc de toute façon, là... c'est fini. Hein. Donc, je vous propose donc d'admettre en non-valeur le titre mentionné ci-dessus pour un montant de 98 €. de prélever le montant de la dépense sur un crédit suffisant inscrit au compte 6542, créance éteinte du budget de l'exercice en cours. Question. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voté à l'unanimité. Bon, compte tenu de ce que j'avais à faire, je n'ai pas eu le temps, même si l'exploitation est très légère, de traiter le compte-rendu d'activité de la concession GRDF. Mais comme je vous l'ai dit, il ne s'est pas passé grand-chose avec GRDF. Mais bon, ce sera remis au prochain conseil municipal, naturellement, et on présentera ceci. Mais je vous propose pour l'instant de passer ça au prochain conseil municipal. Maintenant, voilà, on m'a saisi, l'UMO m'a saisi, a demandé, par l'intermédiaire, c'est l'AMF plutôt, hein, par l'intermédiaire de l'UMO, de demander si on voulait bien adopter une motion de soutien à la candidature de la ville de Paris à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'été 2024. Je vous le soumets. Bon, sachant que bon, Paris paraît aujourd'hui très bien parti, puisque j'ai cru qu'on même très très bien parti. bon, voilà, qu'on souhaite, mais il n'y a pas de finance derrière ça, hein, participer à la mobilisation autour de ce projet. C'est juste une motion de soutien. Bon, je me dis que les Jeux Olympiques ayant lieu à Paris, enfin, il y aurait des activités un peu sur toute la France, si j'ai bien compris, puisqu'il y en aurait même à Marseille. Me demandez plus quoi, j'ai... Voilà. Ceci dit, le gros des activités devrait quand même se dérouler sur Paris. Et si j'ai bien compris, plutôt au nord de Paris. C'est une bêtise, là, ou non, pas de bêtise
Saint-Denis.
Bon, donc, je me dis que peut-être, au niveau de la commune, indirectement, évidemment, on ne va pas avoir une épreuve olympique à Verberie, mais on pourrait avoir un, voilà, une activité supplémentaire, une activité touristique, du logement, des gens qui viennent ici à Verberie. Donc c'est la raison pour laquelle, moi, je vous propose d'adopter cette motion.
Oui, mais question. Même, c'est une fierté nationale, moi, je trouve que ce serait bien.
Bon, il ne faut pas non plus y laisser sa culotte. Hein. Pardon pour... Bah parce que Athènes, par exemple,
laisser.
Non, laisser sa culotte, pas baisser.
Nous ne sommes pas tout à fait dans la même situation qu'Athènes, du moins je l'espère.
Bien. Qui on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à. Tu t'abstiens. Une abstention, pardon, j'allais vite. Donc adopté à l'unanimité, moins une voix. Moins une abstention. Comment ?
Non, rien.
Ça va coûter 4 milliards, c'est ça, tu as dit ?
Non, je dis rien, c'est tout, je pense. Je m'abstiens.
Tout à fait.
Tu as fait raison. Moi, j'ai entendu 4 milliards, c'est pour ça que ça m'intéresse, c'est gros.
Non,
ah si, il y a 8 bon. Milliards, 8 milliards. C'est 8 milliards.
Question. Oui, monsieur Floury.
Pour revenir sur l'infirmière puéricultrice, je viens de vérifier, c'est bien 3 ans plus 1 an de spécialité aujourd'hui. Et d'ailleurs, les infirmières puéricultrices demandent que ça passe à 5 ans.
Oui, oui, bien sûr, c'est une demande récurrente.
Une année de spécialisation.
Ils veulent être considérés comme bac plus 5.
Très bien. Pris en compte. Questions diverses. Donc, monsieur Lamy avait une question sur le parc naturel régional Ouest Pays de France. Donc, je vous laisse la parole.
Oui, lors du précédent conseil, vous nous avez informé de la délibération prise
oui.
de là, à laquelle, si je ne m'abuse, je vous ai participé.
Ah, toujours, oui.
Vous avez voté.
Oui.
Vous avez donc pris une position contre l'entrée au PNR. Alors,
oui.
Pour que les gens ne se trompent pas, j'ai sur le principe la même position. Il faut que tout cela soit clair. Notre groupe, si je peux dire ça, a cette même position. Néanmoins, lorsque vous intervenez en prenant cette position au nom de la commune, il me semble qu'il serait bon qu'un débat ait lieu ici, et que par principe nous arrêtions, puisque le conseil municipal est là pour ça, nous arrêtions une position avant que vous ne vous prononciez sur de tels sujets au nom de la commune.
Bon, d'abord, dans cette affaire-là, d'abord on est élu conseiller communautaire. Et ensuite, quand on vote, parce que je rappelle qu'il y avait quand même plus de 100 sujets, dont un certain nombre d'ailleurs intéressés Verberie, hein. J'ai transmis d'ailleurs le compte-rendu, vous l'avez normalement tous eu, et je procéderai toujours de la même façon pour que vous soyez informés. Donc ça, c'est quand même déjà un premier fait de, j'allais dire, de transparence sur ces faits-là. On représente, on est élu pour effectivement être au sein de l'ARC. Et ensuite, on prend des positions, et les positions, on les prend en son âme et conscience. Pour revenir sur ce que vous venez de dire, je tiens quand même à dire, certes, on aurait peut-être pu avoir un débat ici, mais mon avis, je ne l'ai jamais caché. Dès l'enquête publique, mon avis, je l'ai écrit dans l'enquête publique, fait d'ailleurs 2 pages, et je l'ai même mis sur les réseaux. Donc, mon avis, il était, mais alors, parfaitement connu, je pense, de beaucoup de monde ici. Beaucoup de monde ici. Donc, après, rien n'interdisait, après l'enquête publique qui a eu lieu, qui s'est terminée fin mars, si je ne me trompe, rien n'interdisait, ne vous interdisait, n'interdisait de m'interroger sur ce sujet-là. Je n'ai pas caché ma position, à aucun moment. Au contraire, elle a été rendue tout à fait publique. Alors après, on peut être d'accord, on ne peut pas être d'accord, je le comprends tout à fait. On aurait peut-être pu avoir un débat. Ceci dit, il y a aussi un autre aspect qui joue. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de toutes les affaires d'environnement, etc., les affaires d'environnement, elles se jouent de plus en plus au niveau de l'intercommunalité. Là, typiquement, nous, l'environnement, quand même, pour une grosse part, c'est tout ce qui touche au milieu aquatique. Or, au 1er janvier 2018, qui est compétent dans ce domaine-là? C'est l'agglomération de la région de Compiègne. Et pour revenir sur un débat qu'il y a pu y avoir tout à l'heure, ce n'est pas la volonté de M. Marigny, c'est la loi. Ça figure dans la loi NOTRe.
Donc, la loi NOTRe, elle dit quoi?
Elle dit que la compétence gestion des eaux et des milieux aquatiques est transférée aux intercommunalités au 1er janvier 2018. C'est la loi.
Parce qu'il y a une loi qui vient de sortir dernièrement qui dit que c'est pas parce qu'un président de communauté décide du oui ou du non de la rentrée ou non du PNR, le maire de chaque commune est libre de répondre oui ou non.
Pardon, il y a ici l'article 333-7 du Code de l'environnement.
La loi vient de sortir.
On verra.
Ben oui.
Mais si c'est le cas, eh bien, nous aurons un débat.
Et de voilà. Quelle manière tu vas recevoir un document de Hauts-de-France pour te signifier qu'il doit y avoir un débat en conseil municipal pour décider du oui ou non de rentrer en PNR?
Alors, aujourd'hui, moi, avec la loi telle que je l'avais à la date où on a voté, parce que c'était bien l'état de la loi au moment où on a voté, il est bien précisé que, je cherche le texte exact, hein, le territoire d'une commune ne peut être proposé au classement lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont cette commune est membre a délibéré défavorablement. C'est l'article 333-7 du Code de l'environnement. C'était l'article...
La loi sur la diversité, elle a changé.
C'était l'article qui était en vigueur.
Oh, donne ton texte de loi, tu parles de choses. Tu parles toujours de choses qui ne sont pas concrètes. Tu vois, je te cause.
Bon, on reste.
Je te cause, merci. Je veux débattre.
Je ne te cause pas toi, je cause avec Michel.
Tu parles de choses, on est en réunion de conseil, je suis désolé. Tu parles toujours de choses qui sont vagues. Parle de choses précises.
Tu viens
avec des éléments, tu n'as pas les éléments.
Tu
alors tais-toi.
Tu téléphones au PNR, au président du PNR, et il va te dire.
Mais tu parles de choses dont tu ne connais pas, puisque tu n'amènes pas les éléments.
On gère tes affaires.
Bien, donc ma réponse est la suivante. Au jour où on a voté cette délibération, l'article du Code de l'environnement qui était en vigueur est celui que je viens de citer. Maintenant, s'il évolue, et on va voir, eh bien, effectivement, on va recevoir un dossier des Hauts-de-France, et puis on aura un débat en conseil municipal. Voilà. Et bien sûr, on appliquera la loi. Enfin, voilà, c'est très clair.
Parce qu'il est quand même problématique dans cette situation, c'est que, encore une fois, on a exprimé une position. Voilà, donc on ne va pas à l'encontre de la décision.
Non, je pense que... Oui.
Néanmoins, ce sujet-là devait être abordé ici en amont. C'est simplement par respect pour les membres du Conseil. Ça me semble être quand même le minimum.
Mais attendez.
Se prononcer de cette façon-là à l'art sans que ce sujet-là ne soit abordé, c'est une position personnelle qui est exprimée plutôt que la position du Conseil. Donc,
mais ce n'est pas le Conseil qui vote à l'ARC. Ce n'est pas le Conseil qui vote en communauté d'agglomération. Non, non, non. Ce n'est
pas vous êtes le représentant.
Ce n'est pas le Conseil qui vote.
Il faut parler pour la commune.
Oui, oui, ce n'est pas.
Si ici, l'ensemble des conseillers sur un sujet devait être contre votre avis et que vous prononciez de l'autre côté, je vous rappelle quand même que les pouvoirs du maire lui sont délégués par le Conseil.
Donc, le maire est élu.
À un moment donné, il faut quand même se souvenir de ça.
Mais je m'en souviens. Le maire est élu par le conseil municipal, qui peut d'ailleurs le révoquer.
Tout à fait.
Voilà, c'est clair. Et c'est la loi.
Et pourquoi on ne peut pas un référendum à la commune pour demander l'avis des habitants? Parce que c'est quand même intéressant.
Bien, je propose d'attendre, s'il doit y avoir une nouvelle loi, d'attendre que cette nouvelle loi arrive. Parce que là, on me dit... Monsieur Lamy me dit, ça se discute d'ailleurs, Monsieur Lamy me dit, il aurait fallu en parler au conseil municipal, et toi maintenant tu me dis, il aurait fallu faire un référendum au niveau de la commune. Je pense qu'à un moment donné...
C'est quand même un sujet sérieux le PNR, ça a été comme la centrale, c'est un sujet sérieux.
Mais il y a des tas de sujets sérieux.
Ah oui, mais celui-là...
Il y a des tas de sujets sérieux. Il y a des tas de sujets sérieux.
Non, mais ce qui est quand même amusant, c'est que avant les élections, c'était quasiment un cheval de bataille pour certains, et qu'aujourd'hui, il est un peu glissé sous le tapis, quoi. Donc, je trouve ça un peu quand même étonnant, quoi. Donc, on n'a pas
mais ça...
la peur du débat et de défendre quand même des positions en disant qu'on est contre et qu'on les expliquera si besoin est dans le cadre d'un débat. Mais je trouve quand même assez étonnant qu'aujourd'hui.
On n'avait pas la nouvelle charte. Entre-temps, on a eu la nouvelle charte, de nouvelles dispositions qui peuvent. Non, mais... N'importe qui peut changer d'avis par rapport à comment on a des dossiers de vous qui arrivent. Hein. Je regrette.
Je ne pense pas que c'est fondamentalement changé.
Jouer sur le héros, c'est facile. Bien.
J'ai écrit deux pages d'argumentaire sur le sujet. Je pense que vous les avez lus.
Bon. L'avis a changé, mais les contraintes aussi, globales.
Non.
Globales.
Depuis, il y a quand même eu des lois qui sont passées, il y a eu un tas de choses.
Pas plus. Ouais. Il y a eu 1000 feuilles. Ouais. C'est agrandi, quoi.
Non, mais à l'époque, c'était formidable, ouais. Il fallait à tout prix ça pour se défendre. Ouais. Et puis là, on évite même le débat autour de ce sujet-là, c'est dommage.
Très bien, je vous ai répondu.
De toute façon, on est d'accord avec vous, puisqu'on est contre.
Pour une fois, on est d'accord. Pour une fois, on est d'accord.
Bon. On est pour le débat.
Donc, c'est pas la peine de faire du sang, faire un débat.
On a débattu.
Ils sont un peu frustrés, c'est ça que je veux dire.
On n'a pas débattu.
Qui c'est qui est frustré?
Eh bien, qui est pour la table? Tiens, voir si quelqu'un va lever la main.
Non, ce n'est pas. Ce
non,
n'est...
Non, non, mais c'est pas.
Attendez, ce n'est pas l'objet.
C'est pas un référendum, là.
On en...
C'est pas un référendum, mais quand on a une parole,
quand
on reste.
Et où? Quand on est au pied du mur avec une question qui pique, eh bien, il faut avoir le cran et le courage de montrer qui tu es devant tout le monde.
Ouh là là.
Parce que si tu te tournes. Tu retournes ta veste au moindre conflit, la France demain n'est déjà quasiment plus à nous. On n'a plus rien demain.
Moi
j'aime bien le conflit. Moi
je ne suis pas une politique.
Question suivante.
Je retourne pas ma veste.
S'il vous plaît. Question suivante.
Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai raison ou pas? Est-ce que...
Moi, je prends mes positions franchement, mais on peut en discuter après. Ouais, mais pour l'instant, on va déjà terminer le conseil municipal. Attendez, attends. Avant, on laisse Monsieur Lamy qui avait une deuxième question à poser sa question.
Est-ce que vous pourriez nous pourriez faire un point clair sur le projet dit résidence intergénérationnelle, s'il vous plaît.
Oui, le point clair, le permis de construire a été déposé, il est à l'instruction. Aujourd'hui, il y a eu
procédure de révision simplifiée.
C'est pas une enquête, une révision.
Une révision simplifiée.
Une procédure de modification simplifiée, c'est ça ?
Procédure de modification simplifiée.
Modification, parce que les termes, révision, modification, c'est pour ça que je cherchais un peu mes termes. La modification simplifiée qui vient de se terminer il y a 2 jours. Donc aujourd'hui, on va regarder les documents, on va regarder ce qu'il y a dedans. On va laisser d'abord l'agglomération de la région de Compiègne, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, en matière d'urbanisme, c'est elle qui a la compétence. Mais ça, encore une fois, c'est la loi. Oui et non. Mais bon. Derrière ça, on va regarder, le permis est en instruction, il y a ça. Derrière, aujourd'hui, effectivement, on parle de zone humide à cet endroit-là. Le moins qu'on puisse dire, si elle existe, c'est qu'elle est dégradée. Et sur l'emplacement précis de la résidence, je veux dire, qui est choisie pour la résidence intergénérationnelle. Cette résidence, elle correspond à un vrai besoin. Moi, je considère que c'est un bon, voire un excellent projet. Maintenant, le point, vous m'avez demandé le point. Le point, c'est celui-là. Le permis de construire est en cours d'instruction. Il y a eu cette consultation, on dit ça, la consultation du public, je pense.
Concertation,
etc. Le dossier va être envoyé à l'ARC, va être étudié. Pour l'instant, il n'a pas été étudié. Ça a été fermé il y a 2 jours. Donc, on en est là. Voilà.
Okay. Est-ce que, suite à la question que vous avez posée sur les notions notamment de sécurité et d'accessibilité au site, avez-vous envisagé quelque chose ? Avez-vous entamé une discussion avec le porteur du projet qui vient déposer le permis ?
Le porteur de projet, déjà, il s'occupe de son projet. Il s'occupe de nous rétrocéder, effectivement, une partie de voirie qui sera construite, qui sera sur son projet, parce qu'il est important qu'on le récupère. Savoir s'il doit aller refaire le reste de la voirie, moi, je préfère avoir un porteur de projet qui s'investisse sur le projet, qui nous fasse quelque chose de qualité, plutôt que de lui demander d'aller faire des choses à gauche. Si on doit déplacer les barrières de la rue des Remparts, on les déplacera, on modifiera un peu la voirie, on regardera ces affaires-là, mais typiquement, moi je préfère que le porteur de projet soit sur son projet, investisse sur son projet, fasse effectivement des constructions qui ne se dégradent pas dans les quelques années à venir, et qu'on puisse vivre sereinement avec ce projet. Voilà.
Et donc, pas du tout, vous l'avez dit, essayer d'imposer les choses. Voilà.
Comment ?
On a dit que c'était inconstructible, que de toute façon, la cantine avait été construite sur un terrain humide et que ça ne tiendrait pas, etc. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui...
Ça, c'était avant, et je m'aperçois qu'aujourd'hui,
le terrain, il est bien...
Personne n'a dit et n'a jamais dit que là où la cantine avait été construite, c'était inconstructible. Il a été dit qu'il avait fallu, des pneus de 25 mètres pour la construire, ce qui représente notoirement un surcoût par rapport à un endroit où il n'y a pas ça. D'ailleurs, cet emplacement de la cantine, ce n'était pas le sujet là, mais moi je considère toujours que le choix qui a été fait n'est pas le bon. Mais on peut en discuter. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui. On peut en discuter. On a quand même le droit d'avoir chacun son avis sur cette affaire-là. Mais moi, je considère aujourd'hui que ce n'est pas le bon. D'ailleurs, ça a bloqué un terrain, ça a bloqué une partie. Donc, il y avait peut-être sûrement un meilleur choix que celui-là. Mais ça, on peut en débattre. Donc aujourd'hui, voilà quelle est la position, le point de situation, puisque c'était... votre question sur la résidence intergénérationnelle.
Et donc, vous comptez, puisque, encore une fois, sur ce terrain-là qui est vaste, on est bien d'accord que c'est pour l'instant...
48 logements, pas 130.
Pour l'instant, on est à 48, oui. Pour l'instant, sur la première étape. Écoutez, dans la notice, précisé que c'est une première étape sûre. Et qu'éventuellement, il peut y avoir autre chose.
Oui, éventuellement, il peut toujours y avoir autre chose. Je rappelle que sur ce même terrain... avait été signé un permis de construire avec 3 bâtiments identiques aux bâtiments qui sont juste à côté.
Et la résidence du parc, à l'époque, le terrain, c'était le même.
Trois, monsieur.
Même là où vous habitez, la rue Alexandre-Dumas, c'était un marécage, il n'y a pas si longtemps que ça.
Ouais, c'était la même.
C'est-à-dire 108 logements.
Mais moi, perso, j'ai pas signé, mais
signer, enfin, et ainsi de suite.
Non, mais je dis.
J'ai le droit de demander des choses, et puis
je dis.
Ce qui s'est passé en 1800 ou ailleurs. Hein,
bon, on n'est pas remonté en 1800. Mais je dis simplement, et c'était. Et c'était pas. C'est qu'à cet endroit-là, il avait été signé un permis de construire complet pour 108 logements supplémentaires. Nous, on est revenu en arrière là-dessus. Là, on est sur un projet de 48 logements en résidence intergénérationnelle avec du T2 et du T3. Donc, on est bien en deçà de ce qui était fait à ce moment-là. C'est juste un constat.
Enfin, c'était une résidence. Aujourd'hui, moi, j'avais toujours refusé que ce soit des habitats en milieu modéré parce que je considérais que les appartements qui avaient été vendus à 2 850 € du mètre carré, le promoteur avait dit qu'il y aura derrière aussi une résidence. Il n'a pas tenu parole. Hein. Moi, il était venu me voir plusieurs fois pour vendre le terrain à la SAHLM, je peux la citer, puisque je l'ai même rencontré, j'ai toujours refusé, parce que je considérais que ça n'était pas l'engagement qu'il avait pris par rapport à ses acheteurs. Hein, et que ensuite de revendre, d'être cerné par des habitats moyens modérés d'un côté et de l'autre côté, alors qu'il avait promis à ses acheteurs. Lequel il a vendu à 2 850 € le mètre carré, je trouve que ce n'est pas bien.
Là,
c'est trompé les acheteurs.
Là, on est.
J'ai toujours refusé.
On est sur un autre débat, là.
Oui, mais je l'avais déjà.
On était sur la constructibilité.
Sur les voiries, mais sur les voiries, pas des spécialités.
C'est vrai que la circulation. Parce que vous nous parlez de la voirie interne à son développement, et bon, là, il n'y a pas de problème. Moi, tu fasses les choses bien sur la voirie, ça ne pose aucun problème.
Sur leur voirie, sur le traitement des eaux pluviales, il y a beaucoup de sujets qui sont délicats dans ce projet.
Ce qui m'importe, moi, c'est véritablement le point de sortie. Encore une fois, et je le redis encore une fois, 48 logements, avec par exemple 53 places de parking aujourd'hui, c'est juste insuffisant, c'est juste une évidence aussi, que vous aurez forcément un débordement sur un secteur déjà saturé, comme je l'ai dit, et que le point de sortie posera un problème de sécurité. Je ne comprends même pas que vous ne vouliez pas l'entendre, que vous ne preniez pas
ça. Mais je vous écoute. Hein.
C'est incroyable.
Je vous écoute.
Tout le monde voit bien, à l'endroit où ça va sortir, le long de la cantine, que ça va poser un vrai problème pour sortir, c'est tout.
Oui.
C'est pas...
On le traitera.
Et qu'on ne traite pas ça en amont, et qu'on attende comme ça, et qu'on ne cherche pas à faire à ce que l'investisseur participe aux futurs frais qu'on aura de toute façon à engager sur ce périmètre-là, c'est juste vraiment dommage. Il existe largement des moyens pour le faire. Je rappelle qu'on a la parcelle de sortie, si je ne me trompe pas. La parcelle de sortie, on doit avoir une pointe qui appartient à la ville. Donc,
ouais,
on a tout à fait les moyens d'imposer une discussion avec le promoteur, qu'il participe aux futurs frais, et que ce ne soit pas tous les sautriots qui viennent payer l'aménagement qu'on devra faire du fait de cette opération.
Oui, monsieur, bon. L'ami, ce n'est pas compatible. Il va payer ce qu'on appelle la taxe d'aménagement. On ne peut pas lui demander, en plus, légalement, une participation aux infrastructures. Vous savez bien, c'est incompatible.
Vous avez très bien engagé sur cette base-là.
Bon, vous savez, je ne sais pas ce qu'il va faire parce qu'il y a des exonérations. Et puis en plus, je rappellerai quand même une chose, hein, c'est que les sociétés d'HLM sont exonérées de foncier pour prendre.
Oui, ça je suis d'accord avec vous.
Hein, et que ça ne rapportera pas un sou à la commune puisqu'elles sont exonérées pendant
30
ans.
Tout à fait. Bon, c'était vrai pour les autres. C'était vrai pour les autres immeubles.
Rappel pour rappel. Nous n'étions pas.
Que ce soit Saint-Exupéry. C'est vrai pour tout ce qui a été construit dans ce coin-là. C'était exonéré pendant 25 ans. Ils n'ont pas payé TLE non plus à l'époque. Hein.
Non,
donc voilà. Oui. Donc c'est ça c'est le problème du logement social, mais du logement.
Non, mais je le rappelle, c'est tout. Après.
Alors moi, rappel pour rappel, aujourd'hui, nous sommes rentrés dans du fait de la loi, dans une agglomération qui est plus importante. Nous n'étions pas soumis aux 20% de logements dits sociaux. Je rappelle que sur les revenus, en gros, ça concerne quand même 70% de Français. Nous n'étions pas soumis à ce quota. Maintenant, la règle du fait de notre entrée dans l'agglomération de la région de Compiègne a changé. Et maintenant, nous y sommes soumis. Donc, sauf à vouloir payer des amendes qui, de toute façon, vont encore aller en s'amplifiant.
Moi, je vous rappelle qu'on a 22%, que ces derniers temps, nous avions 22%. Et même le foyer résident,
le foyer résident est compté en quota habitat loyer modéré. Oui, oui.
Aujourd'hui,
le résultat du pourcentage est un rapport entre le numérateur et le dénominateur. Et au dénominateur, il y a des constructions qui continuent à se faire sur Verberie. Donc, le pourcentage baisse tous les jours. Voilà.
Combien, est-ce qu'on a le montant des nombres d'habitants du dernier recensement ?
Non, pas encore. Non, pas reçu. Mais de toute façon, c'est le nombre de logements qui compte. Je rappelle. Aujourd'hui, on a 290 logements de Picardie Habitat. On a 61 logements qui viennent de la résidence, la RPA. Hein. C'est à peu près tout.
On a encore sur...
Le RCD d'HLM, ça n'a pas tout été vendu ?
Oui, il y a encore la SHLM, et puis vous avez l'OPOC sur l'autre partie, vous avez la rue Jean d'Ours,
La rue Jean d'Ours, c'est pas du social ?
Si, il y en a, ils ont acheté quelques appartements, oui, mais c'est pas...
Attendez. Et je sais, puisqu'on avait fait les calculs à l'époque, qu'on avait 4100, on avait 21,8 ou 20...
Mais c'est pas le nombre d'habitants qui compte, c'est le nombre de logements.
Je suis d'accord, mais comme vous avez un ratio de 2,1, on arrive au nombre de logements.
Moi, je dis qu'aujourd'hui, on est tout près des 20%, et que si on ne fait rien, de toute façon, on va passer dessous. Avec ces 48 logements, effectivement, on aura un matelas de sécurité pour un certain temps. On est environ à 2000 logements à Verberie. Donc 50 logements, ça représente 2000, ça représente 2,5%, c'est ça ? 2,5%. Donc on se remet un matelas de 2,5%. Voilà ce que... Voilà.
J'ai une dernière petite question par rapport à ce projet. Il y a assez peu d'éléments et j'ai pas bien réussi à comprendre un petit peu l'organisation. J'ai cru noter qu'il y avait des jardins.
Oui.
Est-ce que la partie basse, ce sont des jardins qui sont liés aux appartements du rez-de-chaussée ? C'est ça ?
Oui, je crois, oui.
D'accord. Alors moi, il y a quand même un petit truc qui me gêne dans ça. C'est quand on parle de résidence intergénérationnelle, de lieux où on est censé se retrouver, se rassembler, et ainsi de suite. Alors, moi je connais assez peu d'immeubles où, lorsque les gens arrivent, ils sont tous à discuter dans le couloir, et ainsi de suite. Quand ils rentrent chez eux, ils ferment la porte et ils sont contents d'être chez eux. Et quand je vois que sur ce projet-là, donc ça confirme ce que j'en pensais, au final, il n'y a pas d'espace commun, d'espace ouvert, de lieu de rencontre. Et que on a des. Je vois des. En tout cas, je crois lire des parcelles de jardins liées aux appartements. Que je vois bien des morceaux avec marqué jardin 90 mètres carrés ou 60 mètres carrés, ainsi de suite. Je me demande où sont vraiment les lieux de partage. Et c'est ce qui m'inquiète un petit peu, parce que si c'est pour nous vendre un titre de résidence intergénérationnelle, et encore une fois, ne faire de ce projet-là qu'il n'en est que le nom, ça me gêne un peu.
Mais il n'en a pas que le nom.
Parce qu'avant, il y avait une obligation d'espace vert commun.
Il y en a.
Est-ce qu'il y a toujours une obligation d'espace vert commun ?
Il n'y a plus les 50 mètres carrés par logement. Je rappelle que 50.
C'est quand même très embêtant parce que avec une densification sans espace vert entre les bâtiments.
Là, ce n'est pas le cas, d'abord.
Il n'y aura pas d'espace vert commun.
Attendez, si, il y en aura. Mais il n'y aura peut-être pas. Bon, il y en aura. Mais ensuite, sur ces affaires-là, les espaces verts, après, on en fait quoi ? Regardez ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé sur Pompidou et tout ce qui est tout autour, Saint-Exupéry, Yourcenar. Aujourd'hui, ça sert à quoi, les espaces verts, là-bas ?
D'abord, il n'y a pas d'espace vert.
D'ailleurs, on va faire marche arrière, on va résidentialiser les choses. On va les résidentialiser parce que il y a des espaces verts qui posent problème, notamment des grandes étendues, ou qui n'appartiennent à personne, et où, personne n'a le sentiment d'appartenance, et derrière, il y règne le plus grand désordre.
Non, mais attendez,
pour qu'on comprenne, il est où le lieu d'échange, en fait ?
dans le projet, parce que ça, c'est pas, on le voit nulle part, en fait. On a besoin de couvrante, c'est tout.
Si vous n'avez plus d'art, si vous n'avez plus de...
Mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, on va avancer sur le projet. Pour l'instant, le permis est à l'instruction. Il y aura, je signale d'ailleurs que sur la société a fait intervenir un hydrogéologue, justement, sur place, pour bien traiter les affaires d'eau, de ruissellement, etc., parce qu'on y était extrêmement vigilant. Parce que sur le projet... Non, c'était fait avant. Sur le projet, c'était fait avant. Sur, là, les documents l'établissent clairement. Sur le projet qui se situe justement à côté, c'est bien un des problèmes. C'est qu'il y a eu manifestement des dépôts de terre, etc., de remblais incontrôlés, qui sont traduits notamment par des inondations ou de l'eau sur toutes les propriétés qui sont en rue de Paris, sur le bord de la Sente. Là, il y a eu de l'eau où il n'y en avait pas avant. Donc là, justement, nous, on a été extrêmement vigilants sur ces affaires-là. Et si un hydrogéologue est intervenu, une société, un bureau d'études, c'est bien parce que nous avons dit que, justement, on serait extrêmement vigilants et qu'il fallait absolument que cette construction améliore la situation actuelle.
Donc voilà. Donc on pourra savoir quels sont les espaces prévus ou autres, des champs.
Vous le saurez dans le temps. Hein,
une fois que ça aurait été voté à l'arc.
Pardon ?
Non, je disais une date.
Mais l'arc ne votera rien là-dessus, monsieur l'ami. Comment vous pouvez dire ça ? Vous avez déjà vu un permis de construire être voté ? Bon. Très bien. Allez, je propose de lever. Allez-y, oui, je vous prie.
Je me suis posé la question s'il est très bien opportun de barrer la rue de la République de 8h du matin à 1h de l'après-midi, alors que les commerçants sont en difficulté pour l'inauguration de cette rue. Or, j'ai appris par quelques commerçants qu'effectivement, c'était le samedi matin qu'ils travaillaient le plus, et que certains en vendant des chipolatas ou des merguez ou autres, et que ça a pénalisé leur commerce qui était déjà en grande difficulté pour beaucoup d'ailleurs. Hein. Et est-ce qu'il n'aurait pas été souhaitable de faire pendant 4 ou 5 minutes, couper, comme on faisait dans le temps, de couper
le ruban
et de rouvrir à la circulation afin de ne pas pénaliser le commerce local qui est, je le rappelle, en grande difficulté puisque, bon, le boucher, on ne sait pas s'il va continuer, s'il va fermer, le terroir arrête.
Lequel de boucher ?
Le boucher en face de la pharmacie.
Eh ben, je peux vous répondre, c'est qu'il il va profiter d'une opportunité sur Compiègne, parce que sur Compiègne, dans une des plus, la plus grande même, je pense, boucherie qui se trouve à la Victoire, le monsieur est malheureusement décédé.
Oui, Gérard.
Et voilà, et derrière, il y a une opportunité qui s'est mise en place sur une infrastructure qui est bien plus grande.
Absolument.
Et monsieur Cruz a décidé d'y répondre. Donc,
mais pas seulement pour cette raison.
Ah bah,
parce
écoutez,
que son commerce était à périclité pendant les mois de travaux.
Monsieur Floury, qu'est-ce qu'on faisait ? On laissait la rue de la République dans l'état où elle était ?
J'ai pas dit ça. Je dis que les travaux ont été extrêmement longs.
Mais c'est toujours long.
Bon, le pharmacien en a aussi souffert. Bon,
donc on laissait tout se détériorer, continuer à se détériorer.
On a voté les travaux.
Alors, qu'ils soient beaucoup plus rapides. Et là, de nouveau, bon, il va y avoir 4 mois de travaux entre la rue de Paris et le barrage, et ça va encore pénaliser les commerces. Et
la rue de Paris.
Monsieur Flo, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Les canalisations sont effondrées. On a fait une réunion.
On a fait une réunion publique.
Vous auriez pu venir voir.
On peut faire des tranches. Et essayer de pénaliser.
Et ça va durer combien de temps, les tranches ? On est déjà très en retard pour se mettre en norme, M. Floré, vous le savez bien. Le diagnostic a été arrêté en 2011.
Les inspections caméras datent de 2009.
Mais les inspections caméras.
Attendez, je continue.
D'accord.
Alors qu'on devrait travailler en chemisage, si ça avait été fait de manière ad hoc, au bon temps, sur l'ensemble du réseau, Aujourd'hui, rien que rue Juliette Adam, on va travailler sur 270 mètres en tranchée ouverte, parce qu'il n'est plus possible de faire de chemisage. Il faut changer toute la canalisation centrale. On va d'ailleurs devoir faire la même chose sur une partie de la rue de Paris, dans le virage de la rue de Paris. C'est la situation actuelle.
Enfin, moi, je vous rappelle que le prix de l'eau, il a doublé. Hein. Alors,
ça n'a rien à voir avec les travaux.
Il a doublé.
Il n'a certainement pas doublé en 3 ans. Il n'a pas doublé en 3 ans.
On a augmenté la surtaxe, vous avez géré suffisamment souvent pour savoir de quoi il s'agit. On a augmenté la surtaxe de... C'est pas vrai. Non, c'est la
surtaxe. On va reprendre.
Oui, c'est faux. C'est faux. C'était 0,26 quelque chose de centimes. Non, je vous apporterai la délibération.
Et pour terminer, monsieur Floury.
Savoir qu'on n'avait pas beaucoup d'argent aussi bon pour faire les travaux.
Que ce soit une nécessité, je suis entièrement d'accord de le faire. D'ailleurs, on a toujours voté pour que ces travaux se fassent.
Alors comment on fait pour faire des travaux sans fermer la route?
Il faut être extrêmement prudent lorsqu'il s'agit des commerces et de ne pas les pénaliser pour les conduire.
Des fois, il serait mieux d'être un peu plus agréable.
Comment ?
Parfois, il serait plus agréable, il vendrait plus, les commerçants. Parce que moi, les commerçants. Je suis allé leur porter les documentations et je n'ai pas toujours été bien reçu.
Aujourd'hui, je pense que lorsqu'on va faire ces achats de rue de la République, les commerçants sont bénéficiaires dans la mesure où on peut se garer. Avant on ne pouvait plus se garer et on allait faire ses achats ailleurs. Aujourd'hui, sur n'importe quel bout de la rue, on trouve toujours une place. Alors qu'avant, on n'en trouvait pas. Ne vienne pas dire qu'aujourd'hui, les commerçants sont en difficulté. Ils ont peut-être eu effectivement une perte de chiffre d'affaires qui n'a pas été aussi énorme que ça, parce que très peu ont eu recours au RSI, à l'URSSAF et aux accords auxquels ils pouvaient avoir droit. Donc c'est qu'en fait, ils n'étaient pas si en difficulté que ça. Il faut aussi le dire, parce qu'ils disent des choses, mais il faut dire des choses qui sont factuelles. Aujourd'hui, très peu, je pense que c'est un ou deux seulement, sont intervenus au RSI et à l'URSSAF, et le restant, aucun n'a fait face.
Bien, on va arrêter le débat ici.
Justement, il y a eu des accords de prix là-dessus.
Je rappelle aussi qu'on fait également d'autres travaux par le CIVOM, notamment des postes de traitement H2S qui vont être posés et qui auraient dû être posés depuis bien longtemps, puisqu'il y a une production de H2S qui est plus qu'alarmante depuis une dizaine d'années.
La Lyonnaise, elle va attirer l'attention du CIVOM depuis 2004 et 2005 sur les H2S. Et vous le savez très bien. Moi, je suis prêt à donner tous les documents à tout stand d'urgence des travaux.
Ceci dit,
et dans la rue Juliette Adam, on doit faire du renforcement pour la défense incendie.
Je ne suis pas certain que les commerçants demain soient contents. Mais écoutez,
tout le monde. On ne peut pas dormir sans penser du
feu. Demain,
j'espère qu'il y aura un autre boucher.
Il y aura un carrefour contact.
Bien. On ne fera une inauguration qu'une fois. Ah oui, après, il va falloir sortir assez rapidement parce que les personnes, Madame Javelot doit préparer la salle pour demain, justement. Oui.